Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle et Gamer. Bonjour Asa.
Salut Ben.
Bonjour tout le monde, merci de nous retrouver en ce lundi de novembre.
C'est le jour où tu fais la liste des Patreons
ouais,
aujourd'hui.
Ouais, ça va chier aujourd'hui. La Belle et Gamer, c'est l'épisode numéro 254. Nous sommes le lundi 7 novembre 2022. Ça y est, on rentre dans la dernière ligne droite de l'année. Il y a les décorations de Noël dans votre ville. Maria Carré a été décongelée. Les chants de Noël sont de retour. Vous êtes obligés de manger du pain d'épices. Et c'est... Non, c'est ça. Si vous n'avez pas encore de sapin,
c'est
la honte.
Et si vous n'avez pas encore des cadeaux pour tout le monde,
j'espère que vos cadeaux sont prêts.
Dans la merde.
J'espère que. Alors, à partir de 2022, on a droit à deux calendriers de l'Avent, un pour novembre et un pour décembre.
Oui, c'est vrai.
Hein, si vous allez au supermarché, il y en a partout. C'est voilà. Et bientôt, bientôt la fin d'année, Noël, les Game Awards, tout ça. Merci à tous, La Belle et Gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties, on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch, où on stream de temps en temps, et sur Twitter. Pour nous soutenir, le moyen le plus simple est de laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast. Ça aide d'autres joueurs comme vous à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir grâce à Patreon. Tous les détails sont sur patreon.com/labellegamer. Chaque mois, on prend également le temps de remercier les membres de notre communauté qui choisissent de nous soutenir sur Patreon. Le Patreon de La Belle et le Gamer, c'est un palier unique, 4 euros par mois, soit en gros 1 euro par épisode. Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais pour nous, c'est absolument vital. Ça couvre les coûts de matériel, d'hébergement du podcast, et ça nous permet de dédier du temps pour vous préparer les meilleurs épisodes possibles. Donc pour nous soutenir sur Patreon, c'est simple, donc c'est sur patreon.com/labellegamer et c'est pour vous également des avantages, en particulier l'accès aux parties secrètes de nos serveurs Discord, avec la possibilité d'assister à chaque enregistrement d'épisode en direct et même parfois des tirages au sort exclusifs pour gagner des cadeaux.
Ouais, il y a des cadeaux assez réguliers quand
ouais,
même.
Ouais. Non, voilà, c'est ça. On vous fait pas chier souvent avec le Patreon, mais voilà, depuis l'épisode 250, où on a fait un petit peu le point et le ménage, on a décidé une fois par mois, on va vous faire chier avec le Patreon, parce que pour nous, c'est,
c'est important.
C'est important, ça nous permet de continuer de faire ce podcast. On aime bien faire ce podcast, mais voilà, on a besoin d'aide
c'est
pour pouvoir le
même.
Faire chaque semaine. Et l'aide, elle vient de vous, et merci beaucoup. Et il faut savoir que tout ce qu'on arrive à rassembler via ce Patreon est réinjecté directement dans le podcast.
C'est les
coûts de serveur, parce que ça coûte un petit peu d'argent d'héberger un podcast. C'est les coûts de matériel, on a des micros, on a des tables de mixage, on a du matos. Et c'est aussi des cadeaux, on essaye de rendre à la communauté le mieux possible. Pour l'épisode 250, hein, pour les 50 de ce podcast, on avait fait des cadeaux, 12 bons d'achat de 25 euros. 12, c'était plutôt cool. Et donc chaque mois, on décide de remercier nominativement les gens qui nous soutiennent sur Patreon.
Et ils nous ont fait une blague là cette fois-ci.
Et j'ai l'impression qu'on a une communauté fantastique, hein. On a une communauté fantastique qui s'est liguée contre nous. Et certains, ils ont compris qu'on allait lire les noms tous les mois. Ils ont décidé de modifier
leur nom.
Ce mois-ci, pour le mois de novembre, merci à ceux qui nous soutiennent sur Patreon. Merci à Bastien V, à Yadraos, à Palas, à Poupignol, à La Méduse, à Rasta Poupilos, à Razorphil, à Bernard Tapoupi, à Pierre-Luc, à Anthony C, à Steven Poupilberg, Nicolas C, Redro, Emmanuel P, Mélanie, Hubert T, Poupiluc, Chitaï, Artemis, Poupoupidou, Elfoufi, Vanadium, Georges Poupidou, Duanra 78, Poupi One, Perceval 777, Poupi Goldberg, Rodolphe L, Joey, Azazel et Poupi Stolero. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est Poupi. On a été hacké par un chat cette semaine. Bon, merci infiniment à tous.
Très bien, merci à tous.
Patreon.com/labelgamer pour nous soutenir. Ça nous permet aussi de faire des trucs très fous, ce Patreon, comme acheter un billet de train pour aller à Paris Games Week et jouer à des jeux vidéo, pour vous raconter un petit peu qu'est-ce qui va sortir et pouvoir tester les jeux en avant-première et vous en parler. Donc cette semaine, le chapitre des jeux auxquels on a joué cette semaine est un petit peu chargé parce qu'on a joué à beaucoup de choses à la Paris Games Week.
Enfin, tu es allé à la Paris Games Week. Moi, j'avais pas le droit.
Hein. Non, toi, ils étaient pas prêts pour toi.
Non. C'était pour moi.
Donc, j'ai fait un aller-retour à Paris pour aller mettre les mains sur les manettes de la porte de Versailles. Et donc la Paris Games Week. J'ai testé plein de trucs. On va commencer par ça. On va commencer l'épisode par les jeux. Alors, il n'y avait pas.
T'as été un petit peu déçu.
Retour
quand même.
Global de la Paris Games Week, c'est la première qu'ils organisent depuis le Covid. Mm-hmm. Hein, c'est la première fois qu'on a un retour physique de l'événement. Après un petit peu de pause, hein, après 2 années. Pendant lesquels ils n'ont pas pu les faire. Et c'est un retour un petit peu timide. Hein déjà, au niveau espace, certaines années, le Paris Games Week, c'était sur 2 halls à la porte de Versailles. Là, c'était sur un seul. Et c'était sur un seul qui n'était pas vraiment bien plein. Hein. On n'était pas trop serré. Les couloirs étaient bien espacés. Il y avait de la place pour circuler. Il y avait énormément de place dédiée à des trucs pas intéressants, des vendeurs de goodies un petit peu louches.
Oui, les goodies étaient un peu.
C'est tous les mêmes, c'est les trucs, c'est des festivaliers, tu les retrouves partout. Mais bon, voilà, il y avait quand même des jeux vidéo, il y avait quand même quelques trucs. Même s'il y avait, c'était pas Byzance, on a quand même joué à pas mal de choses. J'ai préparé une petite liste des jeux auxquels les jeux que j'ai pu tester. Sonic Frontiers.
Ouais, alors ça. Tout le monde attend de savoir ce que ça donne.
C'est des jeux que je fais dans un ordre. Sans ordre particulier. Sonic Frontiers. Alors, on va pas avoir longtemps à attendre pour avoir un avis définitif sur Sonic Frontiers. Il sort la semaine prochaine. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est très attendu parce que les fans de Sonic. Les fans de Sonic, ils ont faim.
Ah oui, ça fait longtemps qu'ils ont faim, ouais.
Les fans de Sonic qui sont complètement affamés et ils veulent un jeu, hein, ils veulent un bon jeu Sonic. Hein, il n'y a pas eu de bon jeu Sonic depuis Sonic. malheureusement, je pense qu'on n'est pas arrivé. Hein, la recherche continue. C'est étrange. Les premières bandes annonces qu'on a eues de Sonic Frontiers, on avait l'impression. Vous savez, c'est ce jeu qui ressemble un petit peu de loin à Breath of the Wild.
Ouais, mais
tu as Sonic qui évolue dans ses environnements, ses grandes plaines vides, où il va faire ses trucs de Sonic, c'est-à-dire se rouler en boule et ramasser des anneaux. Ça faisait un petit peu hors sujet, ça fait,
oui, voilà,
c'était un petit peu bizarre.
Ce qu'on attend,
le style artistique était bizarre. Et au final, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu un hors sujet. On a testé le jeu, on était plusieurs à tester le jeu et je veux pas être méchant avec Sonic, hein, c'est pas une franchise que je suis pas ultra fan de base, mais voilà, on a été plusieurs à tester le jeu et au bout de 5 minutes, on s'est regardé, on fait mais qu'est-ce qui se passe quoi. Je ne comprends pas Sonic Frontiers. Tu te balades dans ces environnements.
Mais tu fais quoi ? Parce que normalement, Sonic, c'est quand même
plateforme,
quoi.
Ouais, alors tu vas avoir quelques petits puzzles disséminés. Alors à un moment, tu vas arriver à un truc et tu vas avoir les trucs classiques de Sonic, les machins qui te font accélérer, les trucs où tu vas rebondir et tu vas se rebondir à gauche, à droite pour choper 2-3 trucs, pour déclencher un truc et voilà. Et t'as fait l'activité et tu vas un petit peu plus loin, tu vas refaire une autre. Les combats, voilà, t'as une touche pour foncer en boule sur tes adversaires et tu tatanes tes adversaires comme ça. Après, c'est un jeu open world, hein, problème de ce genre de jeu, c'est que ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Tu mets un petit peu de temps à comprendre les mécaniques, la boucle générale de ce que tu vas faire. Mmh. Et sur une démo, sur un salon, sur une démo d'une quinzaine, vingtaine de minutes, tu n'as pas forcément le temps de comprendre ce qui se passe et comprendre ce que tu vas faire.
Oui.
Donc, c'est pas, en tout cas, c'est pas sur les 15, sur les 15 minutes auxquelles j'ai joué à Sonic que j'ai compris l'intérêt du jeu. À un moment donné, tu te retrouves dans un niveau qui ressemble plus à un niveau classique de Sonic. Mmh. C'est même des copier-coller. J'ai l'impression qu'ils réutilisent des niveaux des précédents Sonic 3D.
D'accord.
C'est bizarre.
C'est bizarre.
Mais voilà, ça contraste. Ça contraste avec ce côté Breath of the Wild.
C'est des donjons.
C'est pas des donjons. C'est des parcours à faire dans les temps, ramasser un maximum d'anneaux et arriver à la fin et tu débloques des trucs pour ouvrir des portails, pour aller plus loin, pour progresser.
D'accord.
Tu sens, je sais pas, ils vont te dire, quand ils l'ont répété cette semaine, les créateurs de Sonic Frontiers, que c'est pas du tout quelque chose qui cherche à émuler Breath of the Wild ou des trucs comme ça. Mais c'est pareil, je veux dire, tu sais, dans Breath of the Wild, t'avais ces graines de Korok à ramasser un petit peu partout. Là t'as la même chose, t'as un équivalent. T'as beaucoup de choses qui rappellent vraiment volontairement Breath of the Wild, et ça avait été critiqué dès le début, dès le premier trailer. Mmh. Et les niveaux qui font plus Sonic traditionnel, t'as l'impression qu'ils les ont rajoutés pour dire ah non, on a aussi du vrai Sonic, vous en faites pas. Et voilà, t'as des boss à tuer qui sont pas bien compliqués. C'est étrange. C'est étrange, c'est un jeu, t'as l'impression qu'il se cherche, mais qu'il se trouve pas trop.
Ouais.
Voilà, on va sans doute pouvoir tester Sonic avant d'ici sa sortie. Ouais. Comme dit, il sort cette semaine, on va en parler la semaine prochaine, si on arrive à mettre la main sur un exemplaire. Et on va essayer de pousser un petit peu plus, parce que je pense qu'il faut creuser. Hein.
Il faut voir un petit peu, mais c'est vrai que... A priori, ça donne pas envie, quoi.
Hein. Ouais,
Vois pas ce que Sonic vient foutre dans un Breath of the Wild.
On va pas les citer pour pas briser des embargos et des trucs comme ça, mais j'ai un petit peu des échos de gens qui ont pu tester le jeu. Pas chez IGN, hein, parce que mais j'ai eu aux US, je sais qu'aux US, il y a eu des. Il y a tous les avis. Mmh. Il y a tous les avis. J'ai entendu parler de testeurs qui ont détesté, qui ont vraiment, vraiment détesté, et d'autres qui ont adoré.
Ouais.
Le fait d'être fan de Sonic, ça doit aider un petit peu. Sonic est populaire en ce moment, pas à cause de ses jeux, mais à cause des films. Mmh. Hein, les films ont été très bien accueillis auprès du public. Je les ai pas vus, mais a priori, c'est des bons films. Hein.
Mmh. Ils ont dû les refaire quand même.
Ils ont dû refaire Sonic. Hein. Mais voilà.
Ça a failli être une catastrophe. Hein.
Mais voilà. Très étrange ce Sonic Frontiers. À voir.
On verra. Hein. Mmh. À suivre.
Ouais. À suivre attentivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, un des stands les plus intéressants, ça a été le stand de Square Enix.
D'accord.
Tout simplement parce que Square Enix a eu la bonne idée de venir avec des jeux.
C'est curieux quand même.
C'est curieux, hein, c'est un concept intéressant pour un salon du jeu vidéo, mais Square Enix, ils ont dit, ah, si on amenait des consoles et des jeux, ce que d'autres n'ont pas compris, hein, Sony, je t'ai vu.
Ah non, Sony, ils ont amené des jeux.
Attends, Sony...
Ils ont refait un...
À Sony, ils ont fait... tu sais, au supermarché, quand il y a le Père Noël qui vient...
Ouais, pareil, avec les mêmes...
pour prendre la photo.
La petite clôture blanche en bas, et ils ont mis...
pareil, il y avait le Père Noël, sauf qu'il était torse nu, donc ils ont dit que c'était Kratos.
Et il y avait...
Mais il y avait le traîneau, il y avait les sapins, la neige et tout, c'était très festif.
Il y avait le traîneau
festif.
De Kratos.
Ouais, il y avait le traîneau, les sapins, la neige et Kratos. et Atreus, Atreus aussi, ils ont trouvé un cosplayer de 40 ans a priori pour faire Atreus. Mais
non, il a 12 ans sur la photo.
Il n'a pas 12, mais il a... Non, j'exagère. Bref, mais en tout cas, pas une seule manette pour tester God of War à l'horizon.
T'avais Kratos en vrai, t'as pas besoin
à
de trois
jours
tester
de la
God of War.
Et alors, qu'est-ce que je fais? Je monte sur ses genoux
tu prends une photo, tu montes sur ses genoux.
Fais-moi un bisou, Kratos. Non. Donc, chez Square Enix, il y avait des jeux vidéo. On a testé Crisis Core Final Fantasy VII Réunion. Mm-hmm. Faut le dire dans cet ordre-là, c'est ça le vrai titre. Qu'est-ce que c'est ? C'est le remaster de Crisis Core, donc l'épisode Final Fantasy VII, sur un PSP. Mmh. Hein, c'est un vieux jeu dans l'univers de Final Fantasy VII qui était sorti sur PSP et qui ressort là sur PlayStation 5. Alors Square Enix, j'ai un problème. L'industrie du jeu vidéo en général, on a un problème. Les mots remaster et remake, il va falloir se mettre d'accord sur des normes.
Oui, parce que là, c'est plutôt un remake qu'un remaster.
Exactement,
en fait.
Le travail fait sur ce jeu, qu'ils appellent un remaster, c'est assez déglingué. Il y a énormément de boulot qui est fait. C'est un jeu qui, visuellement, immédiatement, t'as l'impression que c'est un jeu moderne. Hein,
Mais ils ont refait dans la...
Ils n'ont pas refait. C'est le jeu PSP qu'ils ont amélioré visuellement.
Ouais, mais il ressemble à Final Fantasy VII, quoi.
Il ressemble à Final Fantasy VII. Ils ont changé les graphismes pour se coller au style visuel de Final Fantasy VII Remake et vraiment l'inscrire dans cet arc-là.
Ouais,
mais c'est exactement le jeu PSP, les animations PSP, les trucs comme ça, avec une couche graphique par-dessus. Donc tu as pas vraiment, on va pas se mentir, tu as pas la même fidélité visuelle que Final Fantasy VII Remake.
Oui,
c'est quand même très beau. C'est quand même très beau, mais c'est le jeu PSP tel qu'il était à l'époque.
Et ils n'ont pas quand même modifié les combats pour coller à...
Non, les combats
gameplay
sont...
de Final Fantasy VII Remake.
Les combats, c'est le gameplay de Crisis Core à l'époque.
D'accord.
C'est un gameplay qui est super. Hein, donc,
Ça va, ils ont le droit de l'appeler remaster.
Ils ont le droit de l'appeler remaster, mais visuellement, le travail qui est fait dessus est assez incroyable. Mais voilà, c'est pas exactement... Enfin, il y a des trucs en plus... dans les combats, il y a des trucs qui se passent en plus et les menus vont rappeler visuellement encore une fois FF7 Remake, mais c'est un style de jeu qui est différent. Dans la démo en tout cas, on a joué qu'un seul personnage. Je ne sais pas s'il se passe d'autres choses dans le reste du jeu, mais dans la démo on joue donc le fameux Zack, hein, qui est le personnage principal de Crisis Core, qui est un soldat.
Ouais, parce que ce jeu-là, il explique les événements qui vont mener à Final Fantasy VII Remake, c'est ça ?
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Quand Cloud, dans Final Fantasy VII Remake, explique que c'est un ancien soldat, il fait référence à son passé et aux événements de Crisis Core.
D'accord.
Donc ça se passe quelques années avant. D'ailleurs, dans la démo, on a vu un des premiers trucs qu'on voit dans la démo à laquelle on a joué, c'est Yuffie. C'est le personnage de Yuffie, encore plus jeune que ce que tu la vois dans FF7 Remake.
D'accord.
Les combats, ça rappelle un petit peu le dynamisme de FF7 Remake, mais avec les mécaniques qu'il y avait dans Crisis Core, en particulier un genre de système de roulette qui est assez intéressant, en tout cas original. Perpétuellement, t'as une roulette comme une machine à sous de casino avec trois trucs qui s'alignent. Qui tourne dans le coin en haut à gauche, et en fonction des trucs que tu as, ça te file des bonus.
D'accord, c'est rigolo.
Des bonus ponctuels que tu as intérêt à exploiter. Ouais. Il va te dire, là, pendant quelques secondes, tu vas avoir mana infini. Là, pendant quelques secondes, ton énergie va se régénérer. Là, tu as possibilité de déclencher une super attaque. Là, tu vas être insensible. Et donc, à chaque fois, selon ce que tu tires, il va falloir en tirer parti pour pouvoir être efficace en combat. Quoi. Mm. Donc, ça bouge bien, c'est vraiment sympa. Encore une fois, la démo à laquelle on a joué était très focalisée sur des gros combats, plutôt que des petits. C'était succession de boss. Hein.
Ouais, okay.
Moi, Crisis Core, c'est un jeu que je connais pas par cœur, mais d'après les gens qui connaissent bien le jeu, c'est presque plan pour plan le même jeu. Quoi. C'est vraiment. On reprend la même chose. Alors, est-ce qu'ils vont modifier la fin pour coller un petit peu aux événements de FF7 Remake, qui sont différents du FF7 original? C'est possible.
Oui, parce que là, ils font quand même un jeu qui s'adresse aussi à ceux qui ont découvert FF7 en faisant le remake.
Ouais. Clairement, c'est pour l'inscrire là-dedans, quoi. Et c'est pour préparer. Et après, c'est pour préparer les gens à
la suite, hein.
À Rebirth, hein, qui arrive l'année prochaine, fin d'année prochaine, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que le programme de Final Fantasy, donc il y a Crisis Core qui sort là en décembre, très très bientôt. Hein. Il sort dans 4 semaines. Printemps, c'est FF16, et à l'hiver prochain, c'est FF7 Rebirth, donc la suite de Remake.
D'accord.
En tout cas, très impressionné par cette démo. On a testé aussi Forspoken.
Ouais.
Hein, exclusivité PlayStation 4, jeu open world nouvelle génération.
PlayStation
de...
4, PlayStation,
PlayStation
5.
PlayStation 5, excusez-moi.
Oui, c'est un jeu qu'on là aussi, date... sur lequel on avait quelques doutes. Alors,
ouais. Forspoken, il intrigue beaucoup de gens parce que c'est un jeu qui date de l'annonce de la PS5. Hein, un des premiers jeux qu'on a vu PS5, ça a été Forspoken, à l'époque où il s'appelait encore Projet Atia. Il a été repoussé 50 000 fois, il aurait déjà dû être sorti si on se fie aux premières dates de sortie annoncées.
Ah ça oui.
Et c'est une ambiance assez, assez particulière. Donc on a testé Forspoken, pour être tout à fait honnête, la première fois, j'ai fait deux fois la démo. J'ai fait deux fois la démo de Forspoken, j'ai fait deux fois la démo de Crazy Score aussi. Mais Forspoken, la première fois que j'ai fait la démo, j'en suis sorti pas emballé. La deuxième fois, un petit peu plus.
D'accord.
Pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui repose beaucoup sur ses combats, des combats très complexes, très impressionnants, avec beaucoup de possibilités. Et donc, surtout qu'il te met dans le jeu en plein milieu pour que quand même tu aies une panoplie un petit peu intéressante. Parce que tu vas avoir la magie des quatre éléments, hein, tu vas avoir la magie de la terre, de l'eau, du feu, machin. Là, on a fait la magie de la terre et la magie du feu à disposition. Et c'est le système de magie est complexe, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de sorts. Alors la première fois j'ai fait le truc, j'ai un petit peu bidouillé sur la manette, j'ai fait ce que j'ai pu pour m'en sortir pour finir la démo. Je me suis pas beaucoup amusé, je comprenais pas trop ce que je faisais, c'était un petit peu frustrant. La deuxième fois je me suis posé, je fais bon, on va lire les sorts, on va regarder qu'est-ce qui fait quoi, et en fait il y a plein de possibilités en combat. T'as la possibilité de faire plein de choses, c'est vite très impressionnant, c'est un jeu qui a des effets visuels sur la magie très très beaux. Le monde lui il est un petit peu vide, l'open world il est un petit peu fade, un petit peu vide, dans des grands espaces un petit peu... Il y a de la verdure tu vois, mais c'est pas ultra détaillé, ça rappelle un petit peu... et c'est pas pour rien, il me semble que c'est le même moteur mais amélioré, ça rappelle un petit peu l'open world de Final Fantasy XV.
Oui, c'est vrai. Hein. D'accord.
Donc c'est dans cet esprit-là, c'est pas super impressionnant visuellement. En dehors des effets de sorts qui sont super beaux, surtout quand tu fais une magie qui pète un peu, genre la magie du feu, c'est impressionnant. T'as toute une panoplie de sorts avec sur les gâchettes de droite les sorts qui sont plutôt offensifs et sur les gâchettes de gauche les sorts qui sont plutôt défensifs, soutien, soin. Et tu combines un petit peu les deux pour faire des combats et c'est très vite très impressionnant parce que t'as des charges, tu peux charger tes adversaires avec la magie de feu mais tu deviens littéralement toi-même une grosse boule de feu qui va exploser à l'arrivée. Ensuite tu fais le sort de soutien, ça fait une cage de feu tout autour de toi, incandescente, pour piéger tes ennemis qui puissent pas s'éloigner de toi. Tu passes de l'un à l'autre, tu te balades très très vite, ça peut être très impressionnant, ça peut être très beau. Les combats, on s'est battu contre des boss, ça peut être intéressant. C'est un jeu, je me demande si c'est pas intéressant de très vite le mettre en difficile pour te forcer justement à pousser le combat, à chercher la stratégie, chercher les meilleures façons d'optimiser ton truc, parce que c'est ça qui est fun. Et c'est clairement ça qui va être fun dans le jeu, le reste risque de pas l'être. L'open world est un petit peu fade et un petit peu vide. Tu te balades dans des espaces vraiment presque sans regarder le monde, hein, mais plutôt en regardant ta map pour aller d'un objectif à un autre. Et voilà, là, qu'est-ce que je dois faire ? Ah, bah là, on a touché le monument, cool, on a un truc en plus, on s'en fout. Tu vois, machin, ah, là, il y a un coffre, on ouvre le coffre, ah, il y a de la merde. Voilà. Et de temps en temps, tu vas avoir des activités sympas, mais souvent, tu vas avoir des activités qui sont pas forcément passionnantes.
D'accord.
Voilà, après, il faut voir l'histoire. C'est un jeu qui a l'air... un petit peu bavard aussi, j'ai peur que l'ambiance soit bizarre et que le doublage soit pas exceptionnel. Elle parle beaucoup. Le personnage principal, son nom m'échappe, le scénario c'est qu'elle vient, elle vient de notre monde, elle vient de New York, et elle est projetée dans ce monde-là, et elle a des pouvoirs magiques et des trucs comme ça, mais c'est une New-Yorkaise qui va parler comme une New-Yorkaise. Je veux dire, et elle va avoir des discussions avec son bracelet magique, parce que la source de ses pouvoirs, c'est son bracelet, et son bracelet lui parle. Donc ils vont parler entre eux, et c'est un petit peu à se balancer des blagues pour faire un petit peu moderne, un petit peu machin. Parfois ça tape dans le mille, souvent ça tape à côté. C'est pas. Mais tu as une désinvolture du personnage principal qui parfois est intéressante. Tu vois, tu...
Oui, ça peut être sympa, mais il ne faut pas abuser, quoi.
Tu essaies de te balader dans le monde, tu passes d'un objectif à un autre, tu vas croiser des monstres et tu n'avais pas envie de te battre contre des monstres. Mmh. Toi, en tant que joueur, ça te fait chier parce que tu n'étais pas là. T'avais... Elle, ça la fait chier aussi, tu vois. Mmh. Elle va littéralement dire à son bracelet, mais pourquoi il casse les couilles, c'est, tu vois.
Ouais.
C'est... Quand tu ouvres un coffre et que dedans, il y a de la merde, elle va dire, ah, c'est de la merde.
Ouais, d'un côté, hein, c'est rigolo
mais voilà.
Peut-être pas trop, quoi.
Non, et j'ai peur que ça soit trop, elle parle beaucoup.
Ouais, voilà.
Voilà, donc Forspoken, je pense que ça mérite de passer du temps dessus, mais attention, c'est...
Ça sort quand ?
Janvier. 23 ouais. Janvier, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est courant du mois de janvier. Donc c'est bientôt aussi. Hein. Mm. C'est bientôt aussi. Retour chez Sega après Sonic. Hein, Like a Dragon Ishin. Hum mm-hmm. Ça aussi, c'est un gros morceau que j'attendais beaucoup. Like a Dragon. Donc, on sait que je suis très fan de... On est très fan de Yakuza.
Oui.
Alors, on rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, la franchise Yakuza n'existe plus. On ne dit plus Yakuza. Les jeux s'appellent maintenant Like a Dragon. Mm. Hein, ça prend la suite de Yakuza 7, qui était sous-titré Like a Dragon. Maintenant, tous les jeux s'appellent Like a Dragon. On va avoir Like a Dragon 8, on va avoir Like a Dragon Gaiden, et avant tout, on va avoir au mois de février Like a Dragon Ishin. Donc ça, c'est un jeu un petit peu particulier, puisque c'est pas, on continue pas les histoires de Yakuza, on continue pas les histoires de Kiryu, de Ichiban. On n'est pas à Kamurocho du tout, on est dans le passé. On est dans le passé, à l'époque des samouraïs. Et c'est un jeu qui va réintroduire un petit peu tous les personnages qu'on a vus dans tous les Yakuza, hein, en partant de Yakuza 0 jusqu'à Yakuza 7, Like a Dragon. Mm-hmm. C'est ces acteurs-là, ces doubleurs-là, ces personnages-là qui sont dans ce monde de samouraïs, qui vont jouer d'autres personnages. Et le jeu se prend pas la tête, c'est juste vraiment, c'est un petit plaisir pour se faire, voilà, on fait revenir tous ces acteurs qui sont géniaux et ces personnages qu'on a adorés.
Ouais, on les met tous ensemble.
Et on les met dans une autre histoire, dans une histoire voilà. De samouraï, et on va raconter une histoire complètement différente. Le jeu va même pas essayer de te faire croire, oui,
il
mais...
Il y a aucun lien, genre c'est pas les ancêtres,
non,
ou des trucs comme ça.
Non, le jeu va même pas essayer de forcer cette justification en disant oui mais lui c'est l'ancêtre de lui, non pas du tout, c'est juste que c'est, on avait envie de faire venir les mêmes acteurs et c'est rigolo quoi.
Ouais, d'accord.
Et donc ils y sont tous mais dans un jeu qui rappelle vraiment Yakuza, le même type d'histoire avec des côtés fun, des côtés très sérieux. Mm-hmm. Ça raconte une histoire très sérieuse, hein, c'est la fin du shogunat.
D'accord.
C'est la fin du shogunat, donc forcément la fin des samouraïs, hein, puisque le samouraï est au service d'un shogun.
C'est ça.
Il y a plus de shogun, il y a plus de samouraï. Donc c'est le dernier shogun, c'est inspiré de faits réels avec des personnages bien entendu fictifs, mais
il y a
un côté historique et c'est cette époque là, c'est le début de l'ouverture du Japon
au
reste du monde. Donc c'est une histoire qui est intéressante mais racontée de ce point de vue un petit peu loufoque,
mais c'est ça que je trouve vachement bien parce que d'un côté tu vas avoir quand même des événements historiques et qui font vraiment partie, qui sont super importants dans l'histoire du Japon, et à la fois racontés de manière à la manière de Yakuza, donc avec des avec des trucs complètement loufoques à côté, donc ça va être super sympa.
Et ouais, et je pense que ça va être plutôt intéressant. Moi j'ai hâte de tester ça, et franchement donc là je l'ai eu en main. Il y a une chose qui me faisait peur. C'est le premier jeu de la licence qui abandonne leur moteur de jeu interne.
Ah oui.
Le Dragon Engine sur lequel tous les Yakuza ont été construits, également le Judgment, et ils passent sur l'Unreal Engine.
D'accord.
Unreal Engine 4, hein, pas le 5, hein, on est sur le 4.
Ah bon?
Alors, ouais. Le jeu sort à la fois sur ancienne génération de consoles et sur la nouvelle. Mmh. On est quand même sur un truc à cheval entre les deux. Mais c'est très beau. Hein. C'est très beau. Et pourquoi ils ont fait ça ? Parce que le Dragon Engine, ça a toujours été un moteur qui a été fabriqué sur mesure pour Yakuza. C'est un moteur graphique qui est extrêmement performant et extrêmement compétent quand il s'agit de faire Kamurocho la nuit.
Oui.
C'est un des trucs qui optimise, voilà, les reflets de néon sur la chaussée mouillée, ce genre de choses. Vraiment, l'ambiance des quartiers chauds, la nuit, ces éclairages-là, ces reflets-là, ces trucs-là. Ça, c'est des choses qui, voilà, c'est pas pour, pour faire
enfin,
pour faire un Japon féodal de jour, ouais. c'était pas au petit. Donc on
change. Il y a moins de néons à l'époque.
Voilà, c'est aussi l'occasion à mon avis de tester un petit peu la franchise sous un autre moteur. Parce que ça peut être intéressant pour des studios de développement de s'éloigner de trucs propriétaires. En tout cas, c'est ce qu'on voit sur pas mal de studios. Sûr. Et peut-être que Ryu Ga Gotoku, ils font à peu près la même chose. Mais c'est très beau, ça marche bien. Manette en main, en combat, c'est le feeling de Yakuza. Ça se joue de la même façon, avec différents styles de combat. On joue donc un clone de Kiryu. Mm-hmm. Qui va avoir différents styles de combat. Un combat à main nue, un combat au sabre. Un combat au pistolet et un style de combat qui mélange sabre et pistolet.
D'accord.
Avec les actions spéciales qu'on connaît de Yakuza. C'est un jeu orienté action, hein, c'est pas un tour par tour comme Like a Dragon, c'est orienté action. Et ça tape fort, ça tape vite, les combats sont vite intéressants et tu fais des actions ultra violentes pour finir tes combats. Tu as des coups spéciaux qui rappellent un petit peu. Ça va piocher en fait. Ça va piocher dans toutes les améliorations du combat action qui ont été faites dans Judgment.
D'accord.
Hein, ou Judgment où il y avait des coups spéciaux de temps en temps, tu pouvais faire des coups ultra puissants en utilisant certains objets. Mm-hmm. Donc là c'est pareil, tu as un système de cartes que tu peux utiliser pour faire des coups ultra puissants. T'as l'impression qu'il tire un rayon de ses mains ou ce genre de choses.
D'accord.
Voilà, c'est vraiment loufoque, mais c'est marrant quoi. Mm. C'est marrant. Non, ça a l'air bien.
Ouais.
Ça a l'air bien. Je suis ressorti.
Moi ça j'attends avec impatience.
Non, je suis très convaincu de ce que j'ai vu. J'ai mis un peu de temps à retrouver mes marques, hein, mais le boss, j'ai dû m'y prendre à deux reprises, mais voilà, ça s'est plutôt bien passé, quoi. D'autres jeux. Alors, là, on se dirige vers le stand Xbox. Xbox où, malheureusement, il n'y avait pas de jeu très attendu. Voilà, on n'avait pas de Starfield ou de trucs comme ça. Hein. Ouais. Encore une fois, Paris Games Week en demi-teinte. Mais il y avait quelques jeux indépendants assez intéressants. Xbox mettait en avant bien entendu le Game Pass. Mm-hmm. Avec tout ce qui se passe sur le Game Pass, il y avait des jeux qui sont arrivés récemment sur le Game Pass. Il y avait des stands pour pouvoir jouer à Persona 5 Royal. Hein, vous avez failli me perdre pendant 3 jours. mais voilà, on a testé Planet of Lana. Planet of Lana qui est un jeu... c'est un petit jeu indépendant, c'est très mignon. Tu joues Lana, qui arrive sur une planète bizarre, et qui visiblement fait directement sa planète, hein, ça devient immédiatement Planet of Lana. C'est vu de côté, c'est des couleurs, c'est joliment dessiné. Tu vas vite rencontrer un petit animal local, une petite boule noire qui est très rigolote, très expressive. Et en fait, avec elle, tu vas résoudre les énigmes pour progresser. Alors c'est très simple, hein. Les contrôles ça va rappeler des vieilleries des années 80-90, genre Prince of Persia ou Flashback, ces jeux vus de côté avec des plateformes à un certain niveau où tu vas te accrocher, te hisser, sauter à la plateforme suivante, ce genre de choses, mais avec des interrupteurs à déclencher. Alors par exemple il faut rester sur un interrupteur pour ouvrir la porte, passer la porte, alors tu vas donner l'ordre à ta petite bestiole d'aller actionner l'interrupteur pendant que tu passes la porte, et ensuite tu vas lui indiquer un autre chemin pour te rejoindre. Mmh. C'est ce genre de choses. Faut voir sur la longueur s'il y a un petit peu de variété.
Ouais, parce que là, ce que tu me décris, c'est plutôt classique, hein, quand même.
Ouais, c'est assez classique, mais ça a du charme parce que c'est joli, c'est le petit monstre est expressif, et voilà, comme dit, c'est des jeux qui arrivent sur le Game Pass.
Ok.
Donc à tester avec plaisir, mais c'est extrêmement mignon. Encore plus intéressé par un jeu qui s'appelle The Last Case of Benedict Fox. Très beau,
ouais.
Très beau, très coloré. Là aussi, on est vu de côté en 2D, mais plutôt sur un style Metroidvania où tu vas explorer des endroits bizarres avec deux mondes qui sont en parallèle. C'était un genre de manoir en fait, mais tu passais vite dans un monde parallèle assez dégueulasse, assez horreur cosmique, dans le style de décor avec des monstres, des trucs comme ça. Et voilà, tu vas explorer, tu vas avoir des pouvoirs qui vont te permettre d'aller à d'autres endroits, style Metroidvania.
D'accord.
Et l'ambiance est vraiment, vraiment, vraiment sympa. C'est joli, c'est coloré, ça bouge bien, c'est très bien animé. Allez voir des bandes annonces de The Last Case of Benedict Fox. C'est cool. Ça sort pas encore. Alors, j'ai pas donné de date. Hein. Planet of Lana, ils nous ont dit. Je sais plus ce qu'ils nous ont dit. Je crois qu'ils nous ont dit printemps. Mm-hmm. Benedict Fox aussi, ça doit être. C'est début 2023. C'est pas tout de suite. Il n'y a pas de date ferme, mais c'est 2023. C'est des jeux qui sont vraiment intéressants. Vraiment. Plus proche de nous, toujours sur le stand de Xbox, j'ai joué à Pentiment.
Ah oui.
C'est Obsidian. Hein. C'est donc un studio interne de Microsoft. C'est une des rares sorties Microsoft Games de 2022. Ça sort la semaine prochaine, la semaine d'après, pardon, 15 novembre. Pentiment, donc c'est Obsidian, c'est un petit projet d'Obsidian. Vous avez peut-être vu des trailers, c'est ce jeu qui est uniquement fait avec, dans le style graphique, des enluminures,
des manuscrits médiévaux.
Ouais, des manuscrits du Moyen-Âge. Donc c'est vraiment ces enluminures, ces petits personnages, ces décors dans ce style-là, et tu vas jouer dans ces décors-là, tu vas balader ton petit bonhomme, et tu vas résoudre une enquête de meurtre. Il y a eu un meurtre, il y a ton pote qui est accusé, et tu es là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et de l'innocenter. Alors c'est marrant parce que je m'attendais pas à ça en y jouant, puisque bon... T'as quand même un style qui se veut assez sérieux, hein. Ces enluminures, c'est quand même quelque chose qui...
Non, mais je crois que c'est drôle.
C'est drôle, oui. Ouais, c'est vraiment drôle.
C'est plutôt Monty Python que...
Pas à ce point-là, pas drôle à ce point-là, mais c'est pas drôle absurde.
Ah, c'est pas absurde, quand même.
C'est pas absurde, c'est sérieux, mais le personnage que tu joues est un petit peu un idiot.
Ah, d'accord.
Et c'est intéressant à jouer. Enfin, tu peux le jouer comme un idiot. tu as des choix de réponse avec des choix avec des possibilités de réponse qui sont particulièrement cons. Et si tu choisis ça, les autres personnages vont pas se gêner pour te faire remarquer que t'es particulièrement con. Et voilà, c'est... À un moment donné, t'as des soupçons sur un forgeron, alors tu vas décider de suivre le forgeron, alors forcément ça se passe mal, et le forgeron il te chope en train de le suivre, donc il s'énerve, et toi t'essaies de t'expliquer, mais ça se passe pas bien. C'est que des situations rigolotes dans cet univers-là, mais c'est vraiment cool. Tout petit bémol sur Pentiment, les temps de chargement étaient assez dingos. Parce que tu passes très vite, mais j'ai l'impression que sur le salon, on jouait sur des PC particulièrement pourris.
Ouais, ça c'est possible.
Je pense qu'une fois qu'on met ce jeu-là sur une Xbox avec son SSD, ça se passera beaucoup mieux.
Ouais, parce que quand même, ce genre de décor, c'est assez chargé. Hein.
Donc, c'est assez chargé, mais c'est de la 2D, c'est pas non. J'ai pas trop compris le principe.
Ça paraît pas fou, ouais, je sais pas.
On a testé également Devil In Me. Devil In Me, ça aussi, ça sort dans pas longtemps, c'est dans deux semaines. C'est le nouveau quatrième The Dark Pictures.
Mm-hmm. Dark Pictures Anthologie.
Ouais, c'est le quatrième jeu de l'anthologie des Dark Pictures, développé par Supermassive. Bon, là aussi, c'est difficile sur salon parce que voilà, il y a du monde autour de toi, c'est un peu le bordel. Alors que c'est plutôt un jeu qui essaye de poser une ambiance. Ouais. Pas évident à faire ça proprement. Mais voilà, Devil In Me, c'est choquant en fait parce que il a pas l'air mauvais le jeu. L'ambiance a même l'air d'être sympa. C'est plus sur une histoire qui rappelle plus Saw ou des trucs comme ça, ce genre de.
Ce genre
de torture, ce genre de foufou. C'est dans un genre de musée de l'horreur et puis ça tourne mal. Et niveau de jeu, si vous avez joué au précédent Dark Pictures, c'est exactement ça.
C'était pas bien les précédents Dark Pictures.
Et les précédents Dark Pictures, c'était un peu...
Il y avait un problème de qualité.
C'était un petit peu bof. Et c'est bizarre parce que c'est le même studio qui fait des choses comme The Quarry. Et c'est vrai qu'après s'être frappé trois Dark Pictures, jouer à The Quarry, c'était vraiment un grand bol d'air frais. C'était vraiment génial,
oui,
The Quarry.
Oui, c'était vraiment meilleur que c'était vraiment, ce qu'on avait
vu avant. Ouais. Tu dis, voilà, et tu te dis, ah, bah, ils ont appris de leurs erreurs, ils ont fait un truc vraiment mieux et tout. Et non, tu... On avait fait 4 pas en avant pour The Quarry, on refait les 4 pas en arrière pour retourner au niveau où on était pour Devil Me.
Oui, il y a vraiment deux niveaux de ouais, production,
deux niveaux de production
sur les gros jeux et sur les petits, plus petits Dark
Clairement.
Pictures.
On retourne sur des contrôles qui sont raides, avec des objectifs qui sont pas clairs, avec un doublage qui est très très bof.
C'est vrai que... Ouais.
Un petit peu sceptique sur ce.
Alors
sur
peut-être que celui-là, ils n'avaient pas encore réfléchi. Ils l'ont fait dans la même veine que ceux d'avant parce que ils les ont pas encore fait évoluer. Je sais
ouais.
pas.
Ouais, ouais. C'est à voir. On finit cette Paris Games Week par deux petits jeux. De petits jeux indés, alors ça c'est des Français qui font ça, Endless Dungeon, c'est un studio français qui a fait pas mal de jeux dans le même style. Endless Dungeon, ça a l'air très sympa, le concept est super. C'est un genre de tower defense, hein, t'es vu de dessus. Mm-hmm. Tu joues deux, là, sur la démo on jouait deux personnages, mais d'après ce que j'ai compris tu peux en jouer jusqu'à trois simultanément. Tu passes d'un personnage à l'autre, ou tu peux jouer à trois en multijoueur. Chacun a ses compétences et le but c'est de déménager un cristal d'un bout du donjon à l'autre bout du donjon. Mmh. Et de temps en temps tu vas avoir des vagues d'ennemis qui vont arriver, donc il faut placer des pièges, il faut placer des tourelles, il faut placer des trucs, il faut préparer la prochaine attaque.
D'accord.
Et survivre à la vague d'ennemis qui essayent de détruire le cristal, il faut le protéger et ensuite profiter du répit pour avancer un petit peu avec le cristal, continuer un petit peu à explorer, préparer les pièges et mettre les choses en place pour la vague suivante. Ça va t'annoncer que ça va venir un petit peu de par là, un petit peu de par là, un petit peu de là, donc tu peux vraiment préparer à l'avance et ensuite survivre à la vague et ainsi de suite. Le jeu est plutôt joli, ça bouge bien, c'est bien animé, ça a beaucoup de caractère. C'est fun à jouer. Mmh. C'est vraiment fun à jouer, donc ça c'est à surveiller, Endless Dungeon. Et enfin, le dernier jeu dont je voulais parler, c'est un jeu dont je n'avais pas entendu parler du tout, avant de mettre les pieds à Paris. Alors, Endless Dungeon, c'est sur Steam, uniquement, c'est sur PC. Et celui-là aussi, c'est uniquement sur PC. Ça s'appelle Mao Kenshi.
D'accord.
Jamais entendu parler. C'est vu de dessus sur un plateau de jeu avec des hexagones. Ça va rappeler un petit peu Civilization, la première fois que tu vas le voir, mais tu joues qu'un seul personnage. Au début, tu choisis ton personnage parmi quatre possibles. Et ça se joue comme un jeu de plateau où tu vas avancer ton pion jusqu'à une série d'objectifs. Tu as des quêtes à faire. Et en fonction de la case sur laquelle tu vas atterrir, tu vas avoir des ennemis, tu vas avoir des événements, ce genre de choses. Tu te déplaces comme dans un civilisation. Tu vas avoir trois points de déplacement. Mais attention, si tu traverses la forêt, peut-être que ça va te coûter deux points de faire une case. Des trucs comme ça, et tu as les actions possibles à chaque tour sont définies par des cartes. Tu as un aspect de deck building où tu fais tes cartes et tu vas avoir à chaque tour 4 ou 5 cartes parmi ton deck. Et tu vas avoir, par exemple, ah, ça c'est la carte qui me permet de me déplacer à travers n'importe quel terrain sans malus. Donc je peux passer la montagne en un seul point. Ou alors ça c'est le truc qui me permet d'explorer la case à côté. Ou alors ça, c'est la carte qui va me permettre de donner un coup et d'attaquer une unité ennemie. Et donc, à chaque tour, tu vas utiliser tes cartes, et ensuite, tu passes au tour suivant, et les ennemis vont faire le même truc.
D'accord.
Et donc, tu vas explorer, tu vas faire les objectifs des quêtes, tu vas avancer l'histoire, tu vas te battre contre tes adversaires avec ça, tu vas trouver des nouvelles cartes qui vont... tu vas choisir... tu vas aller sur une carte, par exemple, voilà, choisis entre les trois. Tu dis, bah voilà, celle-là, parmi les trois, je vais l'ajouter à mon deck parce que j'ai besoin d'attaques qui font du poison, ça a l'air intéressant. Ou j'ai besoin de plus de cartes de déplacement. Il faut équilibrer ton deck parce que si t'as que des cartes de déplacement, alors tu vas te balader super vite dans la carte, mais si t'as un combat, tu vas être emmerdé. Et à l'inverse, si tu as que des cartes de combat, tu vas bien te débrouiller en combat, mais dès qu'il faut se déplacer, ça va être l'enfer. Donc c'est intéressant, c'est joli, c'est sur une ambiance de Chine, époque Trois Royaumes.
D'accord.
Et c'est plutôt joli.
Et c'est français, hein, ça aussi ?
Ça, c'est pas français.
Non. Ah, c'est pas français.
Non, ça n'est pas français. On a rencontré des Français qui bossent sur la communication dessus, mais le jeu, le développement n'est pas français, je vais vérifier.
D'accord.
Ils avaient l'air un petit peu... Mon prochain mot est 100%
raciste. Voilà. C'est ça, ne dis pas un truc raciste.
Non, mais il m'a parlé de gens en Angleterre. Non, c'est ça que je voulais dire.
Ouais,
Alors, c'est mythologie japonaise, parce que je dis chinois, parce que je suis un abruti. C'est mythologie japonaise.
Moi, je pensais que c'était chinois aussi. Hein. Ça a l'air chinois.
Maokenshi, deck building, stratégie, adventure, inspiré de la mythologie japonaise.
D'accord.
Sorti janvier 2023, wishlist sur Steam, développeur. Aucune idée. Aucune idée. GameSource Studio, SARL.
SARL, plutôt français.
Ils ont des bureaux à Paris. Bref, je me renseignerai et j'aurai l'air beaucoup moins con la prochaine fois que je parlerai du jeu. Voilà.
Mais c'est vrai que, je sais pas, moi, ce que tu m'as montré, ça faisait plutôt chinois que japonais, hein. Bizarrement. Je sais pas, j'ai pas vu après le truc, mais.
C'est pour ça que j'ai dit ça.
De loin, ça faisait vraiment chinois.
C'est pour ça que j'ai dit ça. Les décors de la mission à laquelle j'ai joué faisaient très. Tu sais, ces grands pics chinois, ces montagnes avec cette forme très spécifique, très verticale, qui font très. Pérégrination vers l'ouest, des trucs comme ça, c'est cette ambiance là que j'ai vu. Mais ouais, après,
mais
voilà,
je sais pas, même tu m'avais montré les personnages, ça faisait plutôt
écoute, hein, c'est écrit là, on va pas les contrarier.
Ah non, on les contrarie pas, hein.
Voilà pour ce petit compte rendu de la Paris Games Week. Comme dit, pas des tonnes de jeux, mais voilà, ça m'a permis de vous parler en détail de tout ce que j'ai un petit peu testé.
Super.
C'était cool. On avait des questions de nos auditeurs et on va essayer de revenir dessus parce que j'avais promis de répondre aux questions et puis après ça m'est sorti de la tête comme
J'en étais sûr.
Non, mais voilà, sur Forspoken, la question c'était, on y a un petit peu répondu, c'est est-ce que le monde ouvert ne fait pas trop grand et trop vide? Le monde ouvert n'apporte pas grand chose au truc, c'est vraiment tu te balades d'activité en activité sans porter vraiment intérêt à ce que tu vois autour de toi. C'est première vue, c'est un peu ça. Et deuxième question, le système de combat est-il intéressant? Oui, c'est le point fort du jeu. De toute évidence, c'est le point fort du jeu et c'est ça qui va être le plus intéressant dans Forspoken, c'est les combats. C'est le jeu va vivre et mourir sur ces combats. Si jamais c'est pas fun, il y a pas de jeu.
Ouais.
Mais ça a l'air fun, ça a l'air d'avoir beaucoup de variété. Le peu de sorts entre guillemets qu'on avait, parce qu'on avait la magie de la terre et du feu, donc la moitié de la panoplie. C'était déjà intéressant. Au final, c'est plus d'une centaine de sorts différents, Forspoken. Et cette variété va te permettre de faire des trucs vraiment intéressants. Quoi. Question suivante, sur Crisis Core, FF7. Est-ce que le système de combat est similaire à celui de FF7 Remake où il y a du changement? Ça aussi, on en a parlé. C'est quand même assez différent. C'est quand même assez différent, mais il y a des. Mais on retrouve du Final Fantasy. Hein, on retrouve les compétences, on retrouve les matérias, on retrouve l'univers de Final Fantasy VII. Hein, c'est les mêmes matérias avec les sorts de feu, avec les sorts de glace, les mêmes techniques d'attaque à l'épée, ce genre de choses. Mais sur un système de jeu qui est différent. T'as pas l'impression de jouer à la suite ou un truc qui se passe avant FF7. C'est un jeu différent. Quoi. Voilà.
Non, apparemment, il y a un message sur le chat Patreon. On a un Pou Pirate aussi.
Oui, ouais,
qui a été...
J'ai vu le message qui me
voulait être lu et qui ne l'a pas été parce qu'il y a eu un problème. Donc, Pou Pirate.
J'ai vu le message qui me contrarie beaucoup et je vérifierai ça à la fin de l'épisode. Et je promets que justice sera faite au prochain épisode. En dehors de la Paris Games Week, les jeux auxquels on a joué cette semaine, parce qu'on a joué à des vrais jeux, hein, sur
oui,
chez nous, à la maison.
Oui.
On a joué à The Chant.
Oui.
Hein, je voulais parler de The Chant, qui est sorti cette semaine.
On a terminé The Chant, même.
Voilà, on a joué. Bah on a eu la chance de le recevoir un petit peu en avance. On remercie chaleureusement l'éditeur.
Merci.
The Chant, c'est un jeu qui n'a pas fait beaucoup parler de lui.
Ouais.
D'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent, là, chez vous, vous êtes en train de commencer à... C'est quoi, The Chant? Tu vois, je suis dans vos têtes.
Et c'est un jeu qui est sorti...
Il est sorti jeudi, sur Xbox, sur PlayStation, sur PC...
Pas sur Game Pass ou sur PS Plus.
Il est ni sur le Game Pass, ni sur le PS Plus.
C'est peut-être un jeu qui aurait mérité...
Et qui va peut-être y arriver. Hein. Ouais, PlayStation... Ouais. Alors, c'est uniquement nouvelle génération. C'est un jeu PlayStation 5, Xbox Series X et S et Steam.
D'accord.
Le jeu sort à 40 euros. Ce qui est un...
Bon, le prix est correct, hein, mais...
Ce qui est correct, c'est pas un jeu qui est très long, hein. On l'a fini, je dirais, en 8 heures. On l'a fini en 8 heures. C'est un survival horror qui se passe dans un environnement assez original pour ce type de jeu. Mmh. On est sur une, on joue un personnage qui a eu des événements traumatisants dans sa vie et qui a besoin de faire le point et qui décide, qui s'est laissé convaincre par sa copine de rejoindre une retraite spirituelle sur une île isolée pour retrouver un petit peu sa spiritualité et faire la paix intérieure et ça part en couille instantanément.
Bah après, c'est quand même sous la houlette d'une espèce de gourou. Hein,
ouais, il y a un gourou. Voilà, c'est...
Tout de suite, c'est quand même une retraite spirituelle orientée. Je vais suivre un mec qui va me raconter des
trucs. Une des premières réflexions que fait le personnage en arrivant, c'est ça fait pas un peu secte tout ça. Ça fait complètement un peu secte tout ça.
C'est clair.
C'est à mi-chemin entre la retraite spirituelle, le prof de yoga véreux et la secte à 200%.
C'est clair.
Donc c'est... Voilà. Et en moins de 5 minutes, ça vire horreur cosmique avec des oui. monstres, avec des trucs.
Oui, ça part assez vite, hein, effectivement.
De 0 à 100 instantanément. Oui, alors tiens, je vais préparer un thé. Alors, tu peux aller me chercher des brins de lavande, bread et paddle. Y a pas de... Tu reviens, tout le monde est mort, tu vois.
C'est quoi ça.
Voilà, ça démarre très vite, hein, mais voilà, c'est un jeu. Mais c'est une des choses que j'appréciais sur ce jeu, c'est un jeu qui perd pas de temps, qui a un rythme.
C'est vrai.
Ça enchaîne les chapitres, les bits de l'histoire, et c'est voilà, va récupérer ça, reviens, ensuite tu vas faire le truc. C'est un jeu qui va vite. T'as pas envie de poser la manette parce qu'il n'y a pas de temps mort. Tu t'attardes jamais dans le même environnement, tu arrives rapidement à ton objectif, tu vas sur le suivant. C'est un jeu qui est assez dense, qui fait que tu t'ennuies pas. C'est un jeu qui a énormément de charme et énormément de défauts. Ça a énormément de défauts parce que c'est pas une grosse production, c'est un petit studio qui fait un petit jeu qui sort à un petit prix, voilà, tout va ensemble, mais donc tu sens que c'est pas une très grosse production. Manette en main, ça se sent, c'est un petit peu rigide, les combats sont un petit peu c'est de l'à peu près, mais ça passe, hein, c'est jamais vraiment dur, donc t'es jamais vraiment frustré par le fait que ça soit imprécis. Mais voilà, c'est intéressant, l'univers est marrant, les personnages sont ce qu'ils sont. J'ai trouvé le jeu intéressant.
Le jeu est intéressant, mais c'est vrai que l'univers a certains bons côtés. Mais après, par exemple, il y a régulièrement des écrits dans le jeu. Il y en a beaucoup et qui ne sont pas forcément intéressants parce que c'est un petit peu toujours la même chose. Quoi.
C'est un jeu qui est très bavard à l'écrit. Hein, tous les 2 mètres, effectivement, tu vas trouver des papiers par terre qui...
Des lettres, des notes, des machins, des vidéos.
Ouais, voilà. Tu trouves plein de trucs qui font. C'est beaucoup d'expositions. Ils t'expliquent l'histoire, ce qui s'est passé, mais c'est une histoire qui se résume en 3 mots. Hein. T'étais pas obligé de faire des romans et des romans de texte.
C'est ça. Il y a un peu trop de texte pour expliquer quelque chose qui est pas.
Mais complexe. Je sais pas. C'est un jeu qui a un certain charme qui fait que franchement, en jouant, j'avais du mal à poser la manette. On l'a fini en 3 sessions de jeu.
Oui, c'est vrai.
T'as envie de continuer, t'as envie de voir ce qui se passe après, t'as envie de progresser. C'est vraiment cool. L'ambiance est très différente des survival horror habituels. C'est horreur cosmique, mais il y a ce côté spiritualité qui est
exploré.
Oui, voilà,
c'est vraiment basé sur la spiritualité, sur... Une espèce d'autre un autre monde spirituel.
C'est pas méchant comme remarque, tu vois, mais c'est le jeu le plus hippie auquel j'ai jamais joué.
Ah, clairement, ouais. Si vous... clairement.
Si vous voulez, il n'y a pas d'armes à feu. Hein. C'est le seul jeu survival horror où vous allez vous battre contre des créatures horribles venues d'une dimension parallèle à coups de feuilles de sauge et d'huile essentielle. Hein.
C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, hein, non,
Ça ne va pas trop, tu vas bouffer un peu de lavande, ça va mieux après. Hein, un peu de...
c'est ça.
Un peu ça.
Y a pas, les armes, c'est vraiment des armes spirituelles,
c'est
en fait.
Armes spirituelles.
Parce que tu te bats contre des créatures.
Bah, il y a deux types de créatures. Il y a les créatures spirituelles qui viennent clairement d'un autre monde. Et après, tu as des humains qui sont possédés par ces créatures.
Oui.
Donc, selon le type de créature, tu as des armes qui sont plus ou moins efficaces. Hein. Ouais. Est-ce que ce type de créature sera plus sensible aux pièges de sel ou de trucs comme ça que tu vas pouvoir mettre au sol ou leur balancer à la gueule? Plutôt sensible à la sauge, plutôt sensible au feu, plutôt sensible aux huiles essentielles. Donc en fonction de ton adversaire, tu vas essayer de t'adapter. Tu as trois jauges à gérer. Tu as une jauge de spiritualité qui est un petit peu ta jauge de mana,
ouais.
Le truc des cristaux. Et donc ça va te permettre d'utiliser tes pouvoirs spéciaux, parce que tu as des pouvoirs spéciaux quand même, plus ou moins souvent. Tu as une jauge de vie, mais vraiment vie physique. Si tu es blessé, tu vas perdre la vie jusqu'à mourir.
Mm-hmm.
Mais tu as aussi une jauge de santé mentale. En fonction de ce que tu vois, de ton état d'esprit, elle va descendre. Et ces jauges vont jouer les unes entre les autres. Tu vas avoir des trucs pour faire remonter chacune des trois jauges indépendamment. Et tu peux convertir une jauge en l'autre, par exemple. Tu peux méditer de façon à faire baisser ta spiritualité, mais en contrepartie, faire remonter ta santé mentale. C'est un équilibre que tu essayes de maintenir qui est intéressant d'un point de vue gameplay et qui est dans la thématique de ce que jeu essaye de raconter. Mmh. Donc ça, c'est très réussi.
C'est vrai. C'est très réussi.
Voilà. Et tu es toujours dans un côté survival horror avec les règles de Resident Evil qui sont respectées. Je ne sais pas à quel point c'est dynamique parce que j'ai fait le jeu qu'une seule fois, mais tu as toujours l'impression d'avoir plus qu'un seul flacon de sel, plus qu'une seule arme, plus qu'un seul truc. Tu es toujours sur ton dernier truc, mais tu t'en sors et puis tu en retrouves un derrière et puis tu te retrouves sur le combat suivant. Ah, je suis sur mon dernier truc, comment je vais faire? Et je sais pas si c'est le jeu qui est très bien équilibré ou si c'est le jeu qui triche comme les derniers Resident Evil. Les derniers Resident Evil trichent.
Ah bon?
Ah, tu trouveras jamais de guide qui te dit là il y a des cartouches, là il y a des trucs, parce que ça va s'adapter à ton machin.
Ah, ça s'adapte à ce qui te reste.
Ça s'adapte à ce qui te reste.
Ce qui te reste.
Il veut éviter que tu sois en surcharge. Il veut toujours te laisser dans le rouge, mais jamais te laisser dans la merde. Tu vois, c'est vraiment une jauge assez... Voilà, faut toujours être sur le fil et c'est ce qui rend ces jeux-là intéressants, quoi.
Oui, effectivement, et là, c'est un petit peu comme ça. Ouais.
C'est assez réussi dans The Chant. T'es toujours sur le fil, toujours à utiliser. Bon, bah là, je vais utiliser l'arme que j'utilise pas trop parce que j'ai plus que ça, mais le jeu te force. Mmh. Voilà, utilise tous tes outils, utilise toutes les possibilités et voilà.
Ça, c'est vrai.
Donc, c'est pas mal. Non, j'ai trouvé ça cool, The Chant, c'est sur PS5, c'est sur Xbox Series S et X et c'est sur Steam pour 40€. Intéressant, vraiment intéressant comme jeu. Je l'ai pas vu venir, hein. C'est un jeu qui est arrivé sur mes listes de sortie ça m'a intrigué.
Mm-hmm.
et en fait c'est cool. J'aime bien avoir des surprises comme ça dans les sorties jeux vidéo, des trucs qui sortent de nulle part et que j'apprécie vachement. J'ai bien aimé The Chant. Allez, dernier jeu auquel on a joué cette semaine. Après, on va passer à l'actu. Un épisode un petit peu long cette semaine, mais c'est pas grave. Hitman 3, dernière nouveauté incroyable. Non, Hitman 3, il est déjà sorti. Cette semaine, on a pu tester en avant-première. On s'est incrusté comme des rats sur la bêta au mode de jeu freelancer de Hitman 3. Mm-hmm. C'est un mode de jeu complètement nouveau qui sortira à fin janvier.
D'accord.
Donc c'est pas pour tout de suite, mais
la bêta elle est accessible jusqu'à fin janvier.
Non, c'est terminé. La bêta c'est jusqu'à demain. C'est une bêta.
Ah, tu m'as dit je te montrerai, mais tu me montreras pas en fait.
Non, parce que finalement on a joué à The Chant. Mais tout à l'heure, si tu veux, si on a un peu de temps, on fera un peu ça. C'est un mode de jeu complètement différent qui renverse complètement les règles de Hitman et qui crée du contenu infini, en fait. C'est un mode roguelike.
Ouais.
Le principe, tu joues toujours l'agent 47, hein, évidemment, et tu as ta planque. Une planque, c'est une jolie planque. Hein,
Ah bah oui.
C'est une magnifique maison au milieu de la forêt. Ça rappelle un petit peu la maison dans Ozark.
Ah oui, d'accord.
Hein, voilà, donc
c'est une bonne planque.
Mais avec un complexe souterrain, avec des ordinateurs, avec de la technologie, avec des trucs, avec des stocks d'armes. Tu commences cette histoire complètement à poil. Et tu vas prendre des contrats. En fait, tu vas faire c'est organisé sous forme de campagne. Et il faut réussir une campagne du début à la fin. Et chaque campagne a 4 objectifs principaux, 4 cibles à assassiner. Pour atteindre chacune de ces 4 cibles, il faut faire des pré-missions. En gros,
pour obtenir des informations
sur ta cible, pour débusquer ta cible, en fait.
Ah, pour savoir où se trouve.
Voilà. D'accord. Et donc, chaque mission et chaque mission principale et chaque sous-mission, ça va être à chaque fois dans des endroits différents du monde, sur une de toutes les destinations de Hitman 1 à Hitman 3.
D'accord.
Il y a toutes les destinations disponibles. Alors, je ne sais pas comment ils vont gérer ça dans le jeu final. Est-ce qu'ils vont te limiter aux destinations que tu possèdes, si tu n'as que Hitman 3, par exemple ?
Quand tu achètes Hitman 3, tu récupérais pas toutes les maps des 1 et 2 ?
Tu les récupères si tu possèdes les jeux.
Ah, pas si tu les possèdes
non,
pas.
Non, non. Enfin bon, on verra comment ils présentent ça, mais en tout cas, moi j'avais accès à littéralement toutes les destinations de l'histoire de cette trilogie Hitman. Mmh. Et donc, ils te disaient, voilà, tu as une cible, mais ta cible, on sait pas où elle est quelque part dans le monde, alors il faut aller chercher des informations. Alors, tu peux aller chercher des informations, si tu veux, à Hokkaido, à Miami, à Paris. Voilà, bon bah allez, on va aller à Paris. Et donc tu te retrouves sur la map de Paris que tu connais, de Hitman 1, le défilé de mode classique. Et tu as une cible. Et c'est en mode roguelike, c'est-à-dire que chaque mission est différente des autres. C'est jamais la même chose. C'est généré aléatoirement. Ta cible, ça va être une personne quelque part sur la map. Mmh. Et tu vas devoir l'atteindre, l'assassiner, ressortir sans te faire repérer. Si tu meurs, c'est fini. Il faut recommencer et tu peux pas recommencer la mission pour essayer de le choper. Non, c'est fini. Tu te retrouves.
Tu recommences du début. Faut que tu réussisses tout d'un coup. Quoi.
Voilà. Alors, si tu foires une des sous-missions, c'est pas grave. Tu peux recommencer, mais les autres destinations sont un petit peu plus en alerte parce qu'ils t'attendent. Mm-hmm. Par contre, si tu foires un assassinat principal, la campagne est foirée. Il faut recommencer du début.
D'accord.
Donc il y a cette difficulté là, mais du coup, c'est assez dur. Mmh. C'est dur parce que tu vas tomber sur certaines missions.
C'est dur. Hein,
En fait, vu que c'est généré aléatoirement, tu vas tomber sur certaines missions plus difficiles que d'autres.
Ouais.
Une des premières que j'ai faites, c'était la première qu'on a faite. On l'a streamée d'ailleurs. Si vous voulez voir un petit peu de gameplay de ce truc-là, allez sur la chaîne Twitch, la Belle Gamer. Le dernier replay, ça va être ça. On l'a streamé. Et la première mission qu'on a faite, c'était à Sapienza, en Italie. Et la cible était au fin fond du laboratoire souterrain, machin, c'était un des scientifiques. Alors pour atteindre ce mec-là, c'était complexe. Et d'ailleurs, c'est une mission qu'on a foirée. Et il y en a d'autres, on est arrivé sur le manoir en Écosse ou en Irlande, je ne sais plus, le truc qui ressemble un petit peu
en Écosse, je crois, non ?
Ouais, en Écosse. Et là, par contre, le mec que je devais tuer, c'est littéralement un des jardiniers dans le jardin en face de là où tu commences, quoi. Donc tu commences la map, tu fais poup poup, tu repars, allez, ça y est, la map elle est faite.
D'accord.
Donc tu vois, c'est selon sur quoi tu tombes au tirage, ça va être plus ou moins simple. Ça va se présenter comme un roguelike, c'est-à-dire qu'il y a des coffres qui sont disséminés un peu partout sur la carte de façon aléatoire. Dans chaque coffre, tu vas avoir 3 armes, tu vas en choisir une des 3, tu refermes le coffre.
Mm-hmm.
Un petit peu comme un roguelike, un petit peu comme Hades, hein, qui va te proposer 3 pouvoirs. Tu dis, ah, je vais avoir celui-là, je vais avoir celui-là.
Ouais, comme
Et au fur et à mesure que tu fais les missions, tu vas te construire comme ça une panoplie d'armes que tu vas ramener. Et si tu as de la chance, si tu as du bon tirage sur les coffres, tu vas avoir une panoplie d'armes super puissante. Si t'as pas de chance, tu vas te retrouver à la fin des 3 missions avec un canard en plastique et une banane. Voilà.
C'est ça.
Mais ça fait partie du charme du truc, tu vois.
Ah oui, c'est rigolo. Ouais.
Et du coup, c'est vraiment intéressant. Tu vas ramener les choses à ta base. Si tu ramènes des armes à ta base, tu vas pouvoir les ranger dans leur boîte et tout. Et du coup, tu vas te fabriquer un arsenal chez toi, à ton quartier général. Une fois que t'as un arsenal assez complet, tu vas pouvoir vraiment te préparer aux missions. Ah là, j'ai une mission à tel endroit, je vais y aller et je vais me prendre une telle arme de corps à corps et ce fusil et ce truc-là et on va y aller. Chaque mission, en plus de l'assassinat que tu dois faire, tu vas avoir des objectifs secondaires. L'assassiner avec une arme de corps à corps, cacher le cadavre, ou des trucs comme ça qui vont te permettre de gagner une monnaie exclusive au truc, qui te permet d'acheter des armes auprès de fournisseurs.
D'accord.
Donc tu vas rencontrer des fournisseurs sur la map qui vont te dire « Ah bah je vends ça, ça, ça et ça. Ah, et tu veux un explosif, une mine ou un truc comme ça ?» Et ben c'est 40 de Hitman Dollars. Et alors pour avoir 40 Hitman Dollars, il faut avoir fait des trucs secondaires, des objectifs secondaires. Sur la map, tu vas avoir des personnages, tu sais qu'eux, ils transportent de l'argent, donc tu peux essayer de les tuer discrètement pour pas te faire choper, mais pour récupérer de l'argent. Mmh. Voilà. C'est très intéressant comme D'accord. mode de jeu. Et ça, pour les fans de Hitman, c'est vraiment ça insère dans le truc du contenu vraiment sans limite, quoi.
Ouais, ça a l'air cool. Hein.
C'est très très cool. Voilà. Non, on a joué à beaucoup de choses très intéressantes cette semaine. Et c'est une bonne semaine. Et on a passé du temps à vous raconter ça. On fait un petit peu d'actu avant de terminer cet épisode.
Un petit peu.
Ouais. Un petit peu, parce qu'il s'est passé des choses cette semaine, crois-le ou pas. Est-ce que tu veux acheter un PSVR 2 ?
Non.
Tu fais pas d'effort.
Non, vraiment pas. Et je pense que
Sony,
je n'ai pas les moyens d'acheter un PSVR 2.
Sony a annoncé cette semaine, en plein milieu de la Paris Games Week, mais pas à la Paris Games Week, les détails de la sortie de leur casque de réalité virtuelle pour PlayStation 5, le PSVR 2. Ce casque sera disponible dans notre cher pays pour la modique somme de 600 euros.
Combien ?
€600
Nouveau jingle, donc.
Voilà, j'étais obligé de le préparer. 600 euros. Alors, 600 euros.
Voilà, cher Patreon, c'est pour ça que vous payez.
Voilà, c'est ça. C'est l'investissement. Si jamais tu le veux avec un jeu, parce qu'il y a un package, le PSVR 2 plus un jeu, parce que ça serait con, hein.
Un jeu quoi ? Quel jeu ?
Bah, il faut jouer. C'est vendu avec Horizon Call of the. Les robots font du ski, là. Call of the Mountain.
Call of the Mountain, celui où tu rames.
Ouais, où tu fais de la pirogue.
La pirogue ?
Ouais, Horizon fait de la pirogue. Donc, si le pack PSVR 2 plus Horizon fait de la pirogue sera disponible pour 650 euros.
Combien ?
Mais pourquoi ? C'est pas la peine ! Je comprends pas. Il coûte pas 50 euros, Horizon pirogue ?
Si, c'est ça.
Ah oui, voilà, donc il n'y a aucune réduction.
Non, c'est-à-dire qu'ils ont fait... Non, il n'y a aucune réduction. Ils ont fait l'addition pour toi, ils l'ont mis dans la même boîte pour...
C'est ça,
pour
c'est plus trop de... mignon, c'est très gentil.
C'est super mignon.
Oh putain. Bon, donc Sony, on est toujours dans le...
Alors...
la même politique commerciale.
Non, je... Sony, vous n'êtes pas assez riche. Voilà, bon... Après, on s'en doutait de ce prix.
Oui, on savait que ça serait cher. Mais...
Au-delà de la blague, j'étais super content d'avoir préparé un nouveau jingle, mais au-delà de la blague, on savait que ça serait cher parce qu'on sait aussi, faut reconnaître que le PSVR 2, c'est quand même un matos assez exceptionnel. Ils ont placé la barre très très haut au niveau de la qualité de ce qu'ils vont te vendre et on savait que ça coûterait cher. On sait que c'est des choses qui coûtent cher, on sait que les composants électroniques coûtent cher en ce moment.
Oui, mais là, quand même.
Et contrairement, le PSVR 1 était sorti à 400 balles, je crois, à l'époque. Mm-hmm. Le PSVR 1 était vendu sans manette. Hein, il n'y avait pas de manette dédiée. Il fallait jouer soit avec ta manette de PlayStation normale, soit avec les vieilles maracas de ta PS3. Et était vendu sans caméra. Il fallait avoir une caméra branchée à ta PlayStation pour la détection des mouvements, des trucs comme ça. Là, le PSVR 2, en plus d'être du matériel beaucoup plus performant niveau écran, niveau truc, niveau qualité. Il est vendu avec deux manettes et le tracking, c'est des caméras embarquées sur le casque. Donc c'est quand même plus de matos. Voilà, on s'attendait à quelque chose qui soit cher. Le plafond psychologique, c'était quand même de sortir un truc plus cher que la console et ça, ils n'ont pas réussi à l'abattre. On se retrouve avec un PSVR 2 qui est plus cher qu'une console.
Ouais, bien sûr.
La PSVR 2 est plus chère que la PS5.
Ouais, voilà, c'est pas normal. Hein. Enfin,
c'est trop cher.
C'est trop cher. Et en plus, on est toujours sur un produit où il y a peu de jeux à faire tourner dessus.
On va en parler parce qu'ils ont annoncé, ils ont annoncé en plus d'annoncer le prix du truc, ils ont annoncé une dizaine de jeux. Hein.
Oui, mais c'est des jeux intéressants ou parce
non,
qu'on sait ce que
non.
c'est les jeux VR. Hein,
voilà, c'est ça. C'est des petites expériences VR. T'as bien compris, c'est rien de révolutionnaire. Alors,
c'est dommage.
Ils misent beaucoup sur leur Horizon, Call of the Mountain. Ils ont essayé de faire un jeu autour de leur grosse franchise. Je suis pas sûr que le résultat soit vraiment convaincant. En tout cas, les trailers donnent pas forcément envie de jouer. Il y a des rumeurs de titres qui ne sont pas annoncés, mais qui devraient venir et qui devraient être disponibles pour la sortie du truc. Des choses. Encore une fois, c'est des portages, c'est des choses intéressant mais pas trop, genre du Half-Life Alyx, des trucs comme ça.
Oui, parce
alors
que j'allais
pas.
Dire, le seul jeu qui est intéressant, c'est Half-Life Alyx, pour l'instant.
Oui, mais c'est un jeu qui...
Mais c'est un jeu qui a 2 ans, quoi.
Ben, à la sortie du truc en 2023, c'est un jeu qui aura 3 ans, oui, donc c'est pas la dernière nouveauté.
Ça devrait être disponible...
Half-Life Alyx, c'est un jeu d'avril 2020, donc...
Oui, voilà, ça devrait être disponible de base sans... Enfin, je veux dire, c'est...
Complètement. Alors, 600 euros ou 650 si tu le prends avec le jeu, ça sort, j'ai plus la date, j'ai pas noté la date, le 22 février, excusez-moi, ça sort le 22 février 2023, relativement tôt. Le jeu sera disponible uniquement sur commande sur le site PlayStation.
D'accord.
Donc si vous voulez le PSVR 2, là, les précommandes commencent le 15 le 15 novembre sur le store officiel PlayStation. Mmh. J'ai l'impression, d'après ce que je comprends, il sera disponible uniquement là et pas en magasin, pas en rayon, en tout cas en un premier temps.
Donc ils le font sur commande, on va dire, en fonction des...
Alors je sais pas, c'est peut-être pour éviter le bordel qu'il y a eu à la sortie de la PS5, mais on va voir. Et comme dit, ils ont annoncé une dizaine de jeux, mais une dizaine de jeux avec rien de fou. On a quoi comme jeu pour la sortie de ce casque? On a The Dark Pictures Anthology Switchback.
C'est quoi ça?
C'est un jeu qui s'inscrit un petit peu dans les... C'est Supermassive, hein, mais c'est la suite... c'est pas la suite, mais c'est dans le même esprit qu'ils avaient sorti Until Dawn Rush of Blood avec le premier PSVR. Switchback, donc c'est un petit peu la même chose. C'est tu es embarqué dans une espèce de montagne russe avec des trucs qui font peur. Voilà.
Donc c'est plutôt une expérience qu'un jeu, quoi.
Écoute, c'est un jeu,
ils
te le vendent. Hein. Je sais pas si c'est court ou pas. Mais
non, mais je sais pas, tu me dis, t'es dans un.
Ouais, t'es dans une montagne russe, et, bah, c'est un jeu VR, quoi.
Oui, mais t'es dans une montagne russe, ça dure 5 minutes, une montagne russe, quoi.
Ah bah là, c'est peut-être une montagne russe qui dure 4 heures. Hein.
Voilà.
Non, c'est un,
dire,
c'est pas, un jeu
c'est
qui
pas,
a une certaine longueur.
Fais,
non,
tu
non,
fais
c'est
un tour
pas...
de montagne russe et puis tu descends, quoi.
Ah, c'est pas... C'est pas Space Mountain.
C'est,
pas...
ouais, c'est voilà. Ça, c'est le train de la mine et puis c'est bon, quoi.
Ah, j'ai acheté Switchback, combien de temps ça dure? 80 secondes.
Voilà, c'est ça. Je sais pas, mais ils sont capables, hein, donc...
Titre annoncé également, Crossfire Sierra Squad, qui est un shooter première personne des Coréens de Smilegate, hein, dans la licence de Crossfire. Voilà, tu te bats contre des vagues infinies d'ennemis. 39 armes différentes pour tirer sur les vagues infinies d'ennemis. Passionnant. The Light Brigade, ça c'est un roguelike où il faut explorer des champs de bataille générés procéduralement. Mm. Toujours tu vas tirer dessus, il y a du gunplay. Ouais. Simulateur de ville, de construction de ville, hein, Cities VR. On connaît déjà Cities VR, hein, c'était disponible sur le MetaQuest, hein, c'est une version améliorée de ce truc-là qui sort sur PSVR 2. Il y a beaucoup de portages. Hein. Mm-hmm. Il y a un nouveau Hello Neighbor pour te cacher dans la maison de ton voisin. Ça aussi, c'est creepy, c'est bizarre.
C'est des jeux
qui existent déjà sur d'autres plateformes. Hein. Jurassic World Aftermath Collection, qui est la collection qui regroupe Jurassic World Aftermath partie 1 et partie 2. Voilà, pratique. Cool. Voilà, tu te retrouves sur l'île de Jurassic Park et il y a plein de dinosaures partout. Pistol Whip, on connaît déjà, c'est un portage. Zenith The Last City, c'est une version améliorée de VR Zenith qu'on connaît déjà. After the Fall, c'est ça aussi, on connaît déjà, il me semble. Hein. Là aussi, tu vas te battre contre des hordes de mutants. Il faut tous les. Non, il n'y a rien de vraiment fantastique, il n'y a rien de vraiment original et il n'y a rien qui donne vraiment envie. En tout cas.
Pas à ce prix-là, quoi.
Pas à ce prix-là, j'ai du mal encore à voir l'intérêt du truc, à part pour quelqu'un qui est curieux, qui a jamais mis de casque VR sur la tête, qui se dit, voilà, réalité virtuelle, ça fait 5-6 ans que tout le monde en parle, j'ai jamais essayé, j'ai une PS5 à la maison, j'ai gagné au loto, voilà,
oui, voilà.
Je vais m'acheter ça, et on va enfin voir ce que c'est la VR. Non, si vous avez déjà un casque, même un casque entre guillemets... simple comme le MetaQuest ou des trucs comme ça, voilà, je pense pas qu'il y ait un intérêt vraiment. J'ai du mal. C'est tout. Quand on en saura plus sur les jeux et sur le catalogue, on en reparlera. Mais pour l'instant, c'est tout pour ce PSVR 2. Chez Sony, ils sont pas super contents. Hein, ils ont annoncé les chiffres d'abonnement du PlayStation Plus.
Ah.
Hein, PlayStation Plus qui a eu un gros remaniement il y a quelques mois. Remaniement qui n'a pas réussi à renverser la machine pour eux, visiblement, puisque le PlayStation Plus a perdu 2 millions d'abonnés par rapport à la même date l'année dernière.
Ah, d'accord.
Donc voilà, donc un nouveau PlayStation Plus qui a du mal à convaincre des tonnes de joueurs. Après, c'est une chute, mais c'est pas une chute vertigineuse. Il y a quand même beaucoup d'abonnés. Le PlayStation Plus avait 47,2 millions d'abonnés. Maintenant, on a 45,4 millions. Donc on a une petite chute.
Oui, ça va, ça va.
Très, très raisonnable, sachant qu'on a également un prix moyen du PS Plus qui a largement augmenté puisqu'il y a des nouveaux paliers. Donc peut-être qu'en cash, c'est quand même une amélioration. Voilà. Combien sur ces 47,2 millions, 45,4 maintenant, combien ont choisi un palier plus élevé que ce qu'ils avaient déjà ? Ça, ils ne le disent pas. Voilà. Reste à voir. On a des nouvelles de...
Ouais. Non, puisqu'on est sur Sony, je ne sais pas si tu vas parler de nos manettes qui ne fonctionnent plus. C'est prévu dans ton épisode ?
J'avais pas prévu d'en faire une news, mais oui, on a encore...
Ah oui, moi je pense que ça, c'est une news importante, excuse-moi.
Ouais, ça reste notre expérience personnelle anecdotique, mais on en est à la troisième manette DualSense de PlayStation 5 qui meurt, qui décède entre nos mains depuis le début de cette génération, et c'est du caca, et je suis extrêmement déçu de la qualité de ces manettes qui coûtent entre 70 et 80 euros chacune. Donc voilà, hier je jouais tranquillement à Genshin Impact, hein, c'est pas comme si j'avais d'autres jeux sur PS5, et voilà, et mon personnage se déplace vers la gauche tout seul, et ça fait pas plaisir.
Oui, non, voilà, on a tué trois manettes en jouant uniquement à Genshin Impact sur la PS5, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est... Voilà. Ça me paraît pas être le jeu le plus...
non le plus
violent pour une manette, sticks, hein, je veux dire, bon, alors... Je sais que vous, chez vous, vous êtes en train de, vous êtes debout dans votre voiture en disant n'importe quoi. Moi, ma manette, je l'ai depuis le début, elle marche très bien. Et ben super, je suis content pour toi, mon pote.
Mais nous, on n'a pas eu de chance. Hein.
Mais moi, j'en suis à 210 balles de manette et ça me fait chier.
C'est ça.
Encore trois manettes et je pourrais m'acheter un PSVR 2. Naoki Yoshida.
Oui.
De Square Enix, qu'on connaît bien pour son travail sur Final Fantasy XIV et le futur Final Fantasy XVI. A répondu à une interview de nos copains d'IGN et a fourni des réponses qui sont un petit peu malheureuses.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
C'est comme ça, on parle de Final Fantasy XVI, hein, et IGN s'inquiétait justement, après avoir vu trailer de Final Fantasy XVI, c'est « Dis-moi, monsieur Yoshida, et la diversité dans ton jeu un petit peu, parce que c'est très très blanc ce cast ». Et Yoshida a dit « Oui, bah alors c'est une question difficile, mais on s'attendait à ce que vous la posiez. » Alors, pour Final Fantasy XVI, on s'est inspiré grandement de l'Europe médiévale, et voilà, c'était très blanc à l'époque.
Voilà. Ouais.
Ouais.
Non, mais je...
C'est... Ouais.
Ouais. Il a pas tort.
Ouais, mais excuse-moi, mais
on est dans un jeu vidéo,
On est dans un jeu vidéo, effectivement, c'était très blanc à l'époque, mais il n'y avait pas non plus de Ifrit qui galopait dans la Bavière.
Exactement.
donc,
c'est ça.
Je veux dire, t'en as pris des libertés.
Voilà.
te ça. Gêne pas pour.
C'est ça, c'est ça. Oui, non, voilà, tu restes fidèle à l'histoire d'un côté, et après, soit tu fais un truc réaliste de bout en bout, soit. Oui, c'est vrai.
Voilà, donc, merde, tu fais Final Fantasy, tu fais pas...
Oui, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que concrètement, dans Final Fantasy, ils sont tous blancs, en fait.
Alors non, ça dépend des Final Fantasy. Final Fantasy XVI, ils sont... oui, effectivement, ça a la problématique. Mais Final Fantasy XIV, t'as la possibilité de créer des personnages avec différentes couleurs de peau. T'as des personnages qui sont majoritairement blancs, mais tu as une représentation de races, même si c'est des races fictives, tu vas avoir des inspirations qui vont tirer de différentes cultures de notre monde à nous, tu vois. Ça va s'inspirer des cultures asiatiques, ça va s'inspirer des cultures indiennes, ça va s'inspirer des cultures africaines, selon où tu es. Tu vas avoir des personnages à peau noire, tu vas avoir des personnages avec différentes teintes de peau différentes. Tu vas avoir dans Final Fantasy VII, tu as des personnages comme Barrett. Dans tous les Final Fantasy, tu as des personnages, tu as une certaine représentation. Final Fantasy XVI et Final Fantasy XV aussi avec ce problème-là.
C'est vrai. Final Fantasy XV, il y avait des blancs.
Il y a une problématique. Et donc c'est pour ça qu'une réponse comme ça est plutôt décevante. Hein, voilà.
Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, parce qu'effectivement, je veux bien que tu t'inspires d'une époque ou de quelque chose pour faire ton truc, mais effectivement, comme tu dis, quand tu vas partir sur un truc complètement fantastique derrière, tu peux finalement... La raison n'est pas valable.
Voilà,
en fait.
Ils expliquent qu'ils racontent une histoire qui se limite, qui n'est pas une histoire mondiale globale, c'est vraiment quelque chose qui, géopolitiquement, se limite à une masse de terre singulière qui est isolée du reste du monde, et c'est vraiment c'est leurs problèmes locaux.
D'accord.
Et voilà, mais je trouve que c'est une excuse, c'est pas une justification, c'est une excuse, ils cherchent des excuses, quoi.
C'est vrai.
Voilà. Même type de réponse. Alors cette fois-ci, c'est le responsable de la localisation, hein, Michael Christopher Koji Fox, qui bosse aussi sur la localisation américaine de Final Fantasy XIV. Lui, on lui a demandé si on verra plus de personnages féminins, un petit peu comme on a déjà vu dans les Final Fantasy, hein, avec des personnages comme Céleste, comme Aerys, ce genre de truc.
Pareil, hein, s'il s'inspire de l'Europe médiévale, il n'y a pas des femmes. Hein.
L'histoire de Final Fantasy XVI, depuis le concept de base, a été centrée autour du personnage de Clive. C'est lui le personnage principal, c'est un homme, et c'est son histoire qu'on raconte. Voilà. Donc là encore, une réponse un petit peu décevante.
Mais ils n'ont pas fait d'efforts, en fait. Ils se sont dit, ben, on va mettre un mec blanc pour faire le truc, on va rester sur un truc médiéval, blanc, etc. Et c'est tout, quoi.
Ouais. On va voir le résultat final, on va voir ce que ça va donner, hein, mais c'est vrai que c'est pas encourageant. Surtout que c'est pas quelque chose qui est global à Square Enix, tu vois. Forspoken a un personnage féminin qui n'est pas, elle est pas blanche. Il y a plein de trucs intéressants sur ce personnage-là, hein, même si elle vient de New York.
Mais elle est black ou elle est métisse, non?
Elle est métisse, ouais. Elle est métisse. Pas black, mais elle a l'air d'être métisse.
Ouais, voilà,
je connais pas le personnage en détail.
Non, mais voilà, une femme noire qui soit l'héroïne d'un jeu vidéo, c'est pas tous les jours quand même.
Il y a des choses très intéressantes sur ce personnage. Il y a des choses aussi qui.
Ça, on peut le souligner.
Il
hein.
y a des détails de l'histoire de Forspoken. Qu'on va pas spoiler ici, ça n'a pas vraiment été révélé, mais je t'en parlerai en off et on en parlera quand le jeu sera sorti, qui font que parfois Square Enix va explorer des choses qui sont vraiment intéressantes sur ces personnages, sur ces histoires. C'est pas quelque chose qui est global à Square Enix, c'est vraiment certains jeux et certains trucs qui sont parfois en retard. Harvestella est sorti cette semaine, on l'a pas testé parce qu'on n'avait pas été conquis par la démo, et parce qu'on n'a pas eu le temps cette semaine aussi.
De toute façon, t'as dit la dernière fois, ce jeu j'y touche pas. La démo, c'était pas possible, je veux pas y toucher.
J'ai revu un petit peu ma copie depuis parce que le jeu est sorti et les joueurs ont constaté qu'il y avait pas mal d'améliorations dans Avestella sur la version finale par rapport à la démo, et il y avait pas mal de problèmes que j'avais repérés dans la démo qui sont corrigés sur la sortie, sur la version finale. Donc ça, je trouve que c'est cool d'avoir pris le feedback des joueurs et amélioré leur jeu.
Mais bon, ils peuvent l'améliorer jusqu'à un certain point.
Jusqu'à un certain point, tu vois, mais j'étais extrêmement frustré par la durée des journées dans Harvestella. Ça a été modifié, les journées sont beaucoup plus longues dans la version finale.
D'accord.
Il y a beaucoup des améliorations de temps de chargement, de trucs comme ça. Et il y a aussi quelque chose qui m'a choqué dans Harvestella, c'est la version Switch, qui a des graphismes vraiment, vraiment limités, vraiment flous,
moche,
avec des temps de chargement délirants qui rendaient vraiment l'expérience
très, très moche.
Très, très lente et pas agréable. La version Steam, la version PC est nettement plus intéressante apparemment. Donc pourquoi pas, peut-être que si un jour on a le temps, Harvestella, on pourra explorer. Mais je parle d'Harvestella parce que c'est un jeu qui commence par un créateur de personnages où tu as une option non-binaire pour le sexe de ton personnage. Tu peux choisir un homme, une femme ou non-binaire et vraiment customiser le truc comme tu veux.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà, c'est pas un problème d'ouverture au niveau de l'éditeur, mais c'est quelque chose que de studio en studio et en interne, il faut un peu que ça se propage.
Mais en plus, après, moi, c'est vrai que leur justification est pas... Enfin, je veux dire... Dans toutes les créations fantastiques, t'as toujours des personnages qui sont atypiques, même si ça correspond pas exactement à ce qui se passait à l'époque. Mais et en plus, il y avait des gens qui sortaient de leurs conditions à l'époque quand même aussi. Hein. Donc voilà, tu peux placer des femmes, tu peux placer des gens avec une couleur de peau différente de la majorité. Tu peux avoir des trucs.
Ouais, mais c'est.
Tu peux le faire, hein, si tu veux.
Tu peux le faire, tu peux le faire.
Faut faire un effort, mais tu peux le faire.
Et c'est vrai, qu'on est bloqué sur des clichés qui nous ont toujours été imposés dans le médiéval fantastique, que ça soit dans du Seigneur des Anneaux, dans du Game of Thrones, dans du Donjons et Dragons, dans tout ce qui a nourri notre imaginaire médiéval fantastique depuis qu'on est gamin. C'est quand même des univers qui ont pas ou peu de diversité, tu vois. Je veux dire, tu lis Seigneur des Anneaux, tu regardes, ouais, c'est bien, mais il n'y a pas d'autres races. Si, il y a des elfes. Non, mais d'autres...
Il y a les nains.
Des nains. Non, non, des noirs. Des orques. Non,
non, c'est des orques.
Enfin bref, c'est...
Oui, ben ouais, mais bon...
C'est dommage.
Après, Tolkien, c'est très très vieux hein, aussi, hein.
Oui.
Il y a eu quand même une évolution depuis Tolkien. Hein.
Tolkien, c'est le produit d'une époque différente.
On est d'accord.
Mais 100 ans plus tard, peut-être qu'on peut revoir la copie, tu vois. Si on veut continuer à émuler ce qui se faisait à l'époque, peut-être qu'on peut le mettre un petit peu au goût du jour et faire des choses un petit peu plus.
Mais c'est ce qui est fait, je crois. Hein. D'ailleurs, il me semble que dans la série du Seigneur des Anneaux, il y a beaucoup de personnages.
Les anneaux de pouvoir.
Hein, il me semble.
Les anneaux de pouvoir. Alors beaucoup, attention, hein, mais il y a un travail.
J'en ai vu plusieurs. Hein.
Ouais, non, il y a un travail.
Enfin, j'ai pas vu dans les trailers que j'ai vus, il y en avait plusieurs.
Ouais.
Et je trouve ça vachement bien parce qu'il faut faire évoluer le travail de gens comme Tolkien qui bossait à une époque où on n'avait peut-être pas la même vision des choses. Quoi.
On n'a pas vu la série. Hein, donc
Non, on n'a pas vu, mais bon, ils sont là déjà.
Ouais.
Il y a une diversité de base quoi, qui est plus représentative de notre société actuelle. Quoi.
Hideo Kojima fait parler de lui cette semaine. hein, ça change. Hideo Kojima, cette semaine, qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, j'ai un paragraphe spécial Kojima, je devrais lui faire un jingle spécial. Alors déjà, il a dévoilé une nouvelle actrice pour son prochain jeu. Hein, rappelle-toi, en fait, si tu suis un petit peu ce que fait Kojima autour de l'annonce de son prochain jeu, il essaye de faire des trucs par étapes. Il essaye de... Bon, ça n'intéresse personne, mais... Ça avait commencé, je crois que c'était en septembre à la PAX, où il avait fait
une affiche, tu voyais
qui suis-je, voilà, une silhouette, qui suis-je, who am I, et un petit peu plus tard, ça a été révélé que who am I, derrière l'affiche, c'était l'actrice Elle Fanning, qui sera donc dans son prochain jeu. Et suite à ça, affiche suivante, where am I, où suis-je, et une autre silhouette. Cette autre silhouette a été révélée comme étant l'actrice japonaise-australienne Shioli Kutsuna.
Je ne sais pas qui c'est.
Moi non plus, écoute, elle a joué dans Deadpool 2, visiblement.
Je ne sais pas si j'ai vu Deadpool 2.
Je ne suis pas sûr d'avoir vu Deadpool 2, mais bref. visiblement, Shioli Kutsuna sera dans le prochain jeu de Hideo Kojima. On ne sait toujours pas ce que sera ce prochain jeu. Et troisième question, nouvelle affiche, nouveau teaser, avec de nouveau une silhouette noire. Comment ça se fait ? Point d'interrogation. Voilà.
Mais
réponse sans doute le mois prochain, parce que c'est, voilà, il y a une question et une réponse, et se passer de un mois à chaque fois. Dans
le
mois
prochain, c'est les Game Awards.
C'est les Game Awards, ouais. Exactement.
Mais attends, il n'y a pas eu des fuites sur le prochain jeu de Kojima sur
Overdose ? Alors voilà. En parallèle de ça, il y a des fuites. On ne sait pas trop officiellement ce que sera le prochain jeu de Kojima. Il y a beaucoup de choses qui indiquent que Il y a un Death Stranding 2 qui est en production quelque part. Mm-hmm. Hein. On a aussi vu des liens se tisser entre guillemets entre des gens comme Norman Reedus et les nouvelles actrices qui ont été annoncées, hein, ils se suivent mutuellement depuis récemment sur Instagram, sur Twitter, machin. Visiblement, ils se sont rencontrés. Voilà, donc est-ce qu'ils travaillent ensemble sur un Death Stranding 2 ou est-ce que c'est un autre jeu ? Puisque en parallèle de ça, hein, comme tu l'as dit, il y a eu des fuites sur Internet cette semaine de Overdose qui est également un jeu de Hideo Kojima qui serait en développement. C'est des rumeurs qu'on entend depuis un petit moment. Le titre, on l'avait déjà entendu.
Ouais, c'est avec Margaret Qualley, c'est
ouais, ça ? Ouais, c'est Margaret Qualley qui jouerait dans ce jeu-là. Margaret Qualley qui jouait le rôle de Mama dans Death Stranding, mm-hmm. Qui revient pour ce jeu-là qui s'appellerait Overdose. Et les fuites, c'est donc en gros 2 minutes et demie d'images du jeu qui sont diffusées sur Internet, où on voit que le personnage principal est clairement Margaret Qualley, qui se balade dans des environnements un petit peu délabrés. Ça a l'air d'être très, très, très orienté horreur quand même. On voit pas grand chose parce que c'est une vidéo qui est diffusée sur un écran d'un téléphone portable, filmée de loin par un autre téléphone portable. Donc c'est écran filmé sur écran, filmé sur écran. Dans des conditions dégueulasses, qui fait qu'il y a des reflets sur l'écran. On voit pas ce qui se passe à l'écran. Au lieu de ça, on voit la personne qui est en train de filmer.
C'est ça.
Alors, c'est très distrayant parce que la personne qui est en train de filmer le truc et de produire cette vidéo pirate est complètement à poil.
C'est ça.
C'est extrêmement étrange comme vidéo.
C'est très bizarre.
C'est très bizarre. Voilà. C'est merveilleux. Surtout que la vidéo se termine sur un écran où le joueur meurt, un écran de game over, tout noir, et comme c'est tout noir, tu as le reflet, donc à la place d'un écran de game over, tu as clairement l'image du mec à poil.
Mais il est vraiment à poil,
Non, il n'est pas à poil, il est en caleçon, mais il est...
Ah, on voit jusqu'à son caleçon.
Mais écoute, je le comprends, moi aussi, je suis toujours en caleçon quand je fuite des jeux d'Hideo Kojima.
On voit sa tête ou pas? Parce qu'il va, lui, il va se faire choper, c'est évident. Quoi.
Je sais pas si on voit sa tête. Mais...
Ouais, mais bon, déjà, c'est reconnaissable. Hein,
ah, il est reconnaissable. Hein, ça. Alors, par contre, il faut mettre tout le monde torse nu pour les comparer.
Ah, mais... Il faut mettre tout le monde en caleçon, mais bon.
Il est vite repéré. Mm. Voilà. En parallèle, Hideo Kojima annonce dans une interview qu'il souhaite que son studio reste indépendant jusqu'à la mort. Voilà,
très bien.
Je cite « As long as I am alive ».
Ah oui, carrément.
Tant que je serai vivant, de mon vivant, Kojima Production restera indépendant. Il le dit parce qu'en interview, il annonce avoir refusé et repoussé des offres de rachat avec des sommes complètement absurdes. Et malgré ça, malgré les offres extrêmement généreuses, il a décidé de repousser ces offres et de rester complètement indépendant. Donc, deux options. Soit il veut rester complètement indépendant, soit il fait monter les enchères.
Ce qui est possible. Parce qu'après, il peut aussi se faire racheter et rester à la tête de son studio et être plus ou moins indépendant, quand même.
Oui, voilà. Après, ça dépend des contrats. Tu vois, il peut rester...
Bon, après, il a l'air quand même difficilement canalisable, ce monsieur.
Il est difficilement canalisable. Il a réussi à se mettre dans un contexte qui lui convient bien. Tu vois, il réussit à récupérer de l'argent pour faire les projets qui l'intéressent.
Ouais.
Il fait des partenariats sur un jeu cas par cas.
Pour lui, et donc, c'est bien, je pense.
Donc, il reste indépendant, mais il a quand même le soutien de...
Il a le soutien, ouais, de gros
constructeurs, quoi.
Ouais.
Voilà. Overwatch 2.
Putain.
Et oui, on change de sujet. Bon, rapidement, hein, là, on va finir cet épisode rapidement. Le nouveau héros d'Overwatch 2 sortira le 6 décembre 2022 avec le prochain Battle Pass. Comme prévu, il s'agira d'un tank du nom de Ramattra. Une première vidéo de présentation de Ramattra a été diffusée sur le Twitter de Blizzard et d'Overwatch 2. Et donc on a les premières images de Ramattra, pas dans le jeu, hein, c'est une vidéo, c'est dessiné, c'est voilà, sur un petit peu l'histoire de ce personnage qui est un omnique, hein, c'est un robot, un petit peu de la même veine que Zenyatta.
D'accord.
Qui a un rôle de tank avec deux formes de combat complètement différentes. Une forme très défensive, où il va être là pour vraiment protéger son groupe et son équipe, et une forme qui s'appelle Nemesis, qui est extrêmement agressive. Donc tu vas jouer entre les deux, tu vas passer de l'un à l'autre en fonction des situations.
D'accord.
Voilà, on n'en sait pas trop plus sur ce personnage, mais il arrivera sur le prochain Battle Pass. On verra avec ce Battle Pass si Blizzard décide de changer un petit peu la structure du truc et la monétisation du truc, qui a quand même des échos extrêmement négatifs depuis la sortie d'Overwatch 2. Mmh. Voilà, c'est triste. Embracer avait racheté récemment les studios occidentaux de Square Enix.
Ah oui, c'est vrai.
Et il y a trois semaines, ils avaient renommé Square Enix Montréal, parce que c'était un peu con d'avoir un studio qui s'appelle Square Enix Montréal quand t'es plus chez Square Enix.
C'est vrai.
Donc il avait renommé, il l'avait appelé Onoma. Mm-hmm. C'était un nom un petit peu pourri. C'est pas grave, puisque trois semaines plus tard, Embracer a fermé le studio Onoma. Donc ça valait le coup de se faire chier, j'ai envie de dire.
D'accord.
Voilà, donc le studio Onoma est complètement fermé. Le staff a été informé cette semaine de la fermeture de leur studio. Okay. C'est une fermeture qui va affecter environ 200 employés. Certains membres du studio Onoma de l'équipe vont être transférés chez Eidos Montréal, qui, selon certaines sources, travaillerait sur un nouveau Deus Ex. Mais on ne sait pas combien. On ne sait pas combien se retrouvent à la rue et combien sont transférés. Mais en tout cas, le studio ferme. Onoma, c'était... Enfin, Square Enix Montréal, c'était un petit studio. Hein, c'était un studio qui faisait du mobile. C'est eux qui sont à l'origine de jeux mobiles comme Hitman Go, Lara Croft Go, des trucs comme ça.
D'accord.
Mais bon, ils n'existent plus, donc c'est fini. Et ça donne un petit peu l'impression que... On comprend rien à la stratégie d'Embracer, mais Embracer non plus ne comprend rien à la stratégie d'Embracer. Ils savent pas où ils vont, ils tâtonnent. Mais c'est bizarre. On retourne à Square Enix. Hein, Square Enix qui aime bien les NFT. Il y a quelques semaines, on avait espéré que Square Enix ressuscite un petit peu la licence Parasite Eve. Puisqu'ils avaient déposé une marque qui s'appelait Symbiogenesis. Alors la symbiogénèse, c'est la création d'un nouvel organisme à partir de la fusion de deux organismes différents. Mm-hmm. C'est la base même de l'histoire de Parasite Eve. Voilà. Donc on s'est dit très bien, ça va être le sous-titre d'un nouveau Parasite Eve. Alors pas du tout, On sait maintenant ce que c'est. Symbiogenesis. Alors je te lis le tweet puisque c'est tout ce qu'on sait. Projet artistique de collection de NFT. Démêler l'histoire, printemps 2023.
Super.
Je le relis parce que projet artistique de collection de NFT. Voilà, je suis malheureux. Enfin, dernière news et on va se coucher. La série télé HBO The Last of Us débutera aux États-Unis sur HBO le 15 janvier 2023, ça y est, on a une date. D'accord. Un épisode par semaine, premier épisode le 15 janvier aux US. Chez nous, en France, j'ai pas suivi comment il va falloir faire pour choper The Last of Us légalement. HBO, sûr. Généralement, c'est sur...
C'est plus un, non ? Plus un jour ?
Oui, mais sur quoi ?
Sur HBO.
On a HBO en France ?
Ou sur Canal+.
Ouais, alors parfois c'est sur Canal, parfois c'est sur... comment s'appelle ce truc ? Enfin bref. Vous donne rien. Non, mais je suis... Il est sorti.
On s'en fout.
Non, on s'en fout pas, ça a l'air bien, mais...
Ouais, attends... Pas tout savoir. Hein.
On peut pas tout savoir, non. Les sorties jeux vidéo de cette semaine. Demain, mardi 8 novembre, sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch et Steam Sonic Frontiers, dont on vous a parlé tout à l'heure.
Oula, mais il était long cet épisode.
Il était long cet épisode, on avait plein de choses à raconter sur la Paris Games Week.
Oh putain.
Eh oui, c'est déjà le matin. 9 novembre, mercredi, sortira sur PS4 et PS5 uniquement God of War Ragnarok, le retour de Kratos et Atreus au pays de Odin. Voilà, ils ont l'air toujours... tout autant fâché que d'habitude. Les critiques sont tombées cette semaine. Il paraît que c'est plutôt pas mal. Tactics Ogre Reborn, le remake, remaster un petit peu flemmard de Tactics Ogre, sort sur PS4, PS5, PC et Switch le 11 novembre. Et voilà pour les sorties de cette semaine.
D'accord.
Quelques petits jeux qu'on a retenus du Game Pass pour le mois de novembre, intéressants. Ça, c'est alors dès demain, mardi 8 novembre, la version console, quand je dis console, c'est PlayStation et Xbox, de Return to Monkey Island sort.
Ah, d'accord, oui.
Jusque-là, c'était disponible uniquement sur PC et sur Switch. Donc, ça arrive sur PlayStation et sur Xbox et sera sur le Game Pass pour la version Xbox.
D'accord.
Également une version console d'un jeu qui n'était que sur Steam jusqu'à présent, Vampire Survivors, arrive sur Xbox le 10 novembre et sur le Game Pass également.
D'accord.
Ce qui vous permettra d'économiser 4 euros. 15 novembre, grosse journée pour le Game Pass. 15 novembre sortiront à la fois Pentiment de Obsidian, on en a parlé tout à l'heure, on y a joué à la Paris Games Week, ça a l'air très intéressant. Et en parallèle, Somerville. Somerville, c'est le nouveau jeu, c'est le premier jeu de Jumpship, le nouveau studio du créateur de Limbo et Inside, qui s'est barré pour faire son propre truc. Ça s'appelle Somerville, ça a l'air très creepy, très joli et très sympa. Et ça sort le 15 novembre, ça sera également disponible sur le Game Pass.
On nous dit OCS pour le service de...
OCS, c'est le nom que je cherchais absolument, voilà. OCS, merci nos auditeurs toujours à l'affût. Il y a de fortes chances que The Last of Us soit disponible sur OCS à sa sortie pour la France. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode qui était un petit peu plus long que la normale, mais c'était des événements assez particuliers, on avait plein de choses à vous dire.
Merci à tous.
Aza, merci. On vous souhaite une excellente semaine et on vous dit à lundi prochain.
À la semaine prochaine.
Pour de nouvelles aventures. Bye bye.